Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Puisqu'on est bon, on est en train d'enregistrer. Tout est bon. Comment ça va, Alex? J'ai le droit de dire Alex d'ailleurs?
Ouais, bien sûr. Bah, tu peux m'appeler Casquette Verte, mais tu peux aussi m'appeler Alex, Alexandre. Tu peux m'appeler un peu comme tu veux. Tu peux même me siffler si ça te fait plaisir, même si pour les auditeurs, ça sera pas terrible au niveau du bruit.
Ouais, c'est clair. Mais j'ai hésité, tu vois. Je me suis demandé est-ce que je serais capable de t'appeler Casquette Verte, tu vois. Et je me suis dit, Alex, c'était très bien. Donc, tu es Alexandre de Casquette Verte, mais mais je vais t'appeler Alex.
Tu vois, en course, direct, on enchaîne sur la course, mais en course, moi, il y a plein de mecs qui m'appellent Alex ou Alexandre parce que c'est marqué sur le dossard. Ouais. Mais de plus en plus maintenant, je me retrouve avec des mecs qui disent allez casquette, allez casquette. Et donc maintenant, enfin, je réagis aussi bien au prénom Alexandre que au prénom casquette. Donc c'est assez drôle d'avoir cette binomie entre casquette et Alexandre. Ça me fait plaisir. Et en plus, être, ça rime un peu avec tout, donc tu peux faire des jeux de mots.
Ouais. Mais en plus, c'est marrant parce que c'est un autre point commun du coup qu'on partage, parce que bon là, c'est que moi des fois les gens me disent bonjour extraterrien, tu vois. Quand ils m'envoient un petit message sur Instagram ou quoi, les gens savent pas toujours, oublient que je m'appelle Bart ou quoi, tu vois. Ou les gens qui viennent de découvrir le podcast, ils retiennent surtout extraterrien, tu vois. Donc maintenant, je réagis aux deux aussi, tu vois.
Mais ce qu'il faut leur dire, c'est que extraterrien, c'est le prénom et le nom complet. Que en fait, le prénom, c'est juste extra. Donc leur dire, appelez-moi extra.
Appelez-moi extra. Non, on va parler d'humilité ce soir, donc. Mais écoute, franchement, merci beaucoup de m'accueillir. Franchement, on vient de papoter la petite 20 minutes avant de commencer. Je suis trop trop content d'être là. Comme je te disais, là, ça faisait un mois que j'ai fait zéro interview. La première, c'était ce matin, et aujourd'hui, du coup, je me sens super bien. C'est la première fois qu'on m'accueille avec un verre de vin. D'ailleurs, on peut le dire, on boit un petit verre de vin.
Tout à fait.
On a trinqué ou pas?
Non, pas encore. On va trinquer. Je sais pas si on entend le bruit.
Clink.
Voilà, donc, il fallait forcément t'accueillir parce que moi ça me fait très plaisir aussi parce que tu d'une certaine manière en fait tu es déjà avec moi puis des mois et des mois et des mois parce que j'écoute tous tes podcasts tous je vais dire 95% de tes podcasts.
Okay.
Donc là t'as dépassé les 100 épisodes, à chaque fois ça doit faire une heure et demie, deux heures, il y a rarement deux heures par épisode, mais donc imaginons que t'as dû faire déjà 150 heures avec moi, donc en termes de kilomètres t'as fait un sacré nombre de bornes dans mes oreilles, et donc j'ai déjà un peu l'impression de te connaître alors que je te connais pas du tout, et c'est super agréable parce que t'es un podcast et t'es un format que je trouve super intéressant. J'écoute énormément de podcasts, mais le tien je l'ai mis au sommet de ce que j'écoute.
Okay, bon,
parce que c'est pas l'instant fellation, hein, je vous promets. mais en fait c'est parce que tout simplement ce podcast il parle donc d'extraterriens, de gens qui sont inspirants, et quand on court tous les jours, c'est bien d'avoir dans les oreilles des gens qui te sortent de ce que tu es en train de faire, et c'est ce que tu arrives à faire dans tes podcasts, c'est que tu arrives à trouver déjà des personnalités et tu arrives à pas simplement faire un CV de ces personnalités, ce qui serait pas très intéressant, mais de rentrer dans une émotion, d'expliquer le pourquoi de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, et tu vas chercher des trucs qui permettent à ce que quand moi je cours et que je suis en train de faire un bord de périph à Paris, j'arrive à m'évader parce que je suis sur un trimaran, parce que je suis au sommet d'un 4000, parce que je suis sur un parapente en train de faire une jonction de 300 km. Enfin, voilà. Donc merci à toi aussi d'être là, quoi.
Eh ben, écoute, après cet instant fellation, comme tu le dis, mais déjà merci beaucoup, et effectivement, c'est comme ça que je t'ai découvert. Hein, tu vois, t'as été super sympa de me taguer et tout, et du coup j'ai découvert ton contenu, j'ai bien aimé ton approche, je te suis et tout, je regarde et je me dis putain c'est cool. Et là effectivement tu vois j'avais envie de rencontrer tu vois des gens qui prennent le temps tu vois de découvrir un peu ce que je fais, et j'adorais ton approche tu vois, parce que je trouve que t'as une approche dans la course à pied qui vraiment qui détonne tu vois, avec beaucoup de trail, on en parlait juste avant et je pense qu'on va en reparler, c'est un magnifique univers que le trail et la course à pied, mais qui devient de plus en plus stéréotypé, marketé, avec quelques tabous et tout. Bon, on n'est pas là pour parler que de ça, mais moi je trouvais que j'aimais bien ton approche où tu te prends pas trop la tête, tu te fais plaisir, et on partage plein de points communs, on habite juste à côté, on connaît ce que c'est que de courir autour du périph ou dans le bois de vin, ça n'a pas d'heure, et du coup je me suis dit que on allait passer un bon moment, tu vois. Donc top.
Écoute, c'est parfait, et c'est un bon moment, c'est le nom d'un autre podcast, d'un youtubeur.
Ouais, c'est vrai, d'ailleurs. C'est vrai.
On mettra pas de copyright pour lui. mais écoute, quand tu dis que j'ai une approche détonnante, moi ça me fait plaisir parce que je cherche pas à répandre cette image particulièrement, mais c'est ma façon de faire et je suis content qu'elle soit ressentie comme ça par quelqu'un qui comme plein d'autres me suivent simplement sur les réseaux. Et donc si c'est l'image que tu as de moi je me dis que c'est peut-être représentatif et ça me va d'avoir cette image, quoi.
On sent que on posera les premières questions de vraies interviews un peu plus tard. Je me permets de digresser dès maintenant, mais on sent dans ton contenu, et ce que je trouve ce qui est cool, et dans ton approche un peu des réseaux sociaux, de la communication au sens large, et de ton image, c'est que tu t'es toi-même, en fait. Tu vois, on sent que c'est hyper spontané et que tu cherches pas toujours à plaire. Alors j'ai cru comprendre dans une interview qu'à un moment tu t'étais t'es peut-être tombé un peu dans le piège des réseaux sociaux, tu vois, de chercher à plaire, de chercher à faire des défis que l'audience attend et tout. Et moi, j'aime bien, tu vois, cette approche ultra authentique où tu te livres. Tu parles aussi de tes faiblesses, tes défauts, tes qualités et tout. Et c'est pas facile à faire. Franchement, c'est pas facile à faire avec le recul. Et moi, je kiffe bien ce côté authentique. Donc, j'espère que ce soir, on va être authentique. Mais on l'est. On l'est déjà. Dès que j'ai passé le pas de la porte, j'ai senti des bonnes ondes. Donc, je pense que ça va le faire.
Donc là, ce soir, c'est une soirée authentique, sachez-le.
Authentique. Avec un verre de vin.
Exactement.
Un bon moment.
Belle imitation, Kylian sera très content d'entendre ça.
Ouais, d'ailleurs, j'espère qu'il écoutera un jour. J'adore ce mec, ce qu'il fait, mais...
Il court pas beaucoup, je pense, mais écoute, Kylian...
Il court.
Kylian court.
Ouais, je te jure, il court.
Écoute, Kylian, il va absolument que tu falloir que tu écoutes ce podcast. Je vais mettre toute ma pression médiatique. Je vais te taguer dans tous les sens juste pour que tu l'écoutes. Donc, Kylian, sache que si tu cours, donc tu as un podcasteur qui s'appelle Extraterrien qui aimerait bien découvrir ta façon à toi de faire du sport aussi, même si c'est peut-être parfois juste en bref. écoute, Kylian...
Viens au micro
d'Extraterrien et moi, casquette verte, je t'amènerai courir un petit peu et tu découvriras autre chose, de la sueur, mais viens découvrir le micro d'Extraterrien.
On lui propose un plan à trois, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais interview plus petite course à pied et petit verre de vin, je pense que c'est un bon combo à faire. Mais non, en fait, dans son spectacle, tu sais, il a fait son tout premier spectacle qui est dispo sur YouTube.
Pulsion ou
Ouais, exactement. Et tu sais, il parle du fait que justement courir, ça crée de la dopamine et tout. Et une ou deux fois, il dit ouais, il évoque le fait qu'il s'est mis à courir justement et que ça lui fait du bien et que puis il a perdu beaucoup de poids aussi. Tu vois, il a eu un changement physique un peu radical, quoi.
Mais c'est marrant parce qu'on peut partir de Kylian. Donc pour les auditeurs qui ne savent pas de qui on parle depuis tout à l'heure, en fait Kylian c'est le mec qui a fabriqué Bref et c'est le personnage principal de Bref, donc la série qui est sortie sur Canal il y a quelques années, qui était dans le Grand Journal, qui a fait plein d'autres choses depuis. Ce mec-là, effectivement, donc je viens de l'apprendre, il s'est mis à courir. Et moi, je me rappelle d'un épisode de Bref où il présentait un peu le personnage, je crois que c'était son voisin, c'était un homme comme tout le monde, en fait, c'est Monsieur Tout le Monde. Et lui, Kylian aussi, est, au final, dans la façon de se présenter dans Bref, quelqu'un comme tout le monde, et se dire que ce mec-là se met à courir, ben moi, ça me fait dire que Kylian, il est capable de faire un marathon, il est capable de faire une Saint-Élion, il est capable de faire les Templiers, il est capable de faire l'UTMB et la Diagonale des Fous. C'est possible, et c'est un mec... C'est marrant qu'on parle... Le podcast, il devait parler de moi, merde, quoi. Kylian, ça peut être l'exemple d'un type comme des gens qui peuvent nous écouter là, qui actuellement courent 5-10 kilomètres et trouvent que c'est déjà un défi en soi, et c'est un défi en soi pour eux. Il faut se dire que c'est possible de se projeter et que des choses comme je viens d'évoquer, que ça soit l'UTMB, la Diagonale et n'importe quel trip de truc qui peut paraître totalement fou, qui peuvent paraître extraterriens, c'est possible de les réaliser et il suffit juste de se dire que sa zone de confort, elle a pas tellement de limites et on peut aller chercher en dehors de celle qu'on croit avoir pour se dépasser soi-même. Donc bon exemple d'un mec comme tout le monde qui pourrait devenir une star de l'ultra trail. À voir. mais voilà, enfin un mec comme ça qui pourrait devenir ultra trailer, ça me rappelle que le mec que moi j'étais il y a quelques années est devenu maintenant ultra trailer et je trouve que en fait c'est, tu parlais de ma philosophie avant, mais c'est que ma philosophie, c'est juste que le champ des possibles est immense et qu'il a pas de limite et que tant qu'on se dit que c'est pas totalement impossible, même si on se le dit, faut juste prouver à soi-même que, ben, au final, c'est possible. Ouais. Et à force de temps, d'envie, c'est possible de réaliser n'importe quoi, quoi.
Ouais, ouais, bien sûr. Puis des fois, quand tu te dis, bon, ça, c'est impossible, mais je vais essayer quand même. Puis en fait, en le faisant, tu te dis, bah pourquoi pas en fait, et t'as ce petit déclic et tu gagnes confiance en toi fois mille, tu vois, et tu deviens ton extraterrien et tu repousses ta limite, tu vois, et c'est ça que je trouve vachement beau dans le dépassement de soi et dans le sport, c'est que l'approche du sport, c'est quand même toujours d'essayer de progresser un peu ou de faire toujours un peu mieux et c'est un travail à faire sur soi-même et c'est ça qui est beau, quoi. Et je trouve que tu l'incarnes vachement bien, toi. C'est-à-dire que c'est un peu ton motto, non, en plus de te prouver à toi que les trucs impossibles, enfin qui te semblent impossibles, en fait, qui sont possibles, quoi.
Ben en plus, j'ai écouté un podcast récent où il y a quelqu'un qui a utilisé la citation de Mark Twain. J'en rappelle plus qui c'était. C'était une nana super bien. Je crois que c'est celle qui fait du parapente. Enfin, on va dire elle fait du parapente. Non, elle a un niveau de dingue. Où elle disait, ils ne savaient pas que c'est impossible, alors ils l'ont fait. Ouais. Et cette phrase, elle est totalement vraie. Toi, tu dis que c'est mon motto, mais moi, en fait, ça, je l'ai découvert au fur et à mesure du temps. Je me suis pas tellement posé la question au départ de, il faut que tu réalises les choses impossibles. C'est venu à moi et pour moi l'impossible au tout départ c'était de faire un semi-marathon et déjà ça me paraissait impossible, ça me paraissait inimaginable que j'arrive à courir 21 km et que je sois debout à la fin et encore vivant par la suite et le lendemain et j'ai beaucoup fonctionné comme ça en fait dans ma manière d'approcher le sport et l'ultra maintenant c'est étape par étape. Quand j'ai commencé, je me suis dit, est-ce que réellement ce que tu projettes de ton niveau actuel te permet de te projeter encore pour aller chercher quelque chose qui est réalisé par d'autres? Mais si c'est réalisé par d'autres, alors ben ils ont deux jambes, deux bras. S'ils le font, pourquoi toi tu le ferais pas? Donc ça a commencé comme ça et le semi-marathon est passé et un marathon est passé. Après j'ai découvert des mi-distances, on va dire des 70-80 km et là je me suis dit ah ouais quand même non, au final ton corps il est capable de courir deux marathons alors que 6 mois, 1 an en arrière tu faisais 10 km t'étais mort. Et derrière, il y a eu l'inscription aux premiers ultras. Et là où, à cette époque-là, je voyais les gens qui finissaient, rien que les gens qui finissaient, comme des extraterrestres absolus, pour moi, c'était totalement impossible. Le fait de m'inscrire et de me dire, écoute, tu vas tenter le coup toi aussi. Je me disais toujours que c'était impossible. Je prenais le départ, je pensais toujours que c'était impossible, que j'arriverais jamais au bout. Et puis, finalement, je suis allé au bout et je me suis dit, attends, finalement, c'était... totalement faisable. Il suffit juste en fait de encore une fois de se sortir de sa zone de confort, d'avoir envie d'oser souvent ça passe, parfois ça passe pas, mais le réaliser ça te fait juste te rendre compte que les limites que tu projetais par le passé, les limites que tu pensais avoir, au final elles n'existaient pas du tout et donc après tu rentres un peu dans cette boucle de quelles sont au final mes limites et plus t'avances plus tu te demandes quand c'est que ça va s'arrêter. Moi j'en suis là maintenant dans ma progression, c'est à quel moment je vais trouver la limite, à quel moment je vais trouver que là j'ai atteint la limite de mon corps et de mes envies. Et pour l'instant, je l'ai pas encore trouvé, quoi.
Mais ça, c'est ça qui est cool, tu vois, c'est la découverte de soi et le fait d'oser, de tenter des trucs, fait que t'apprends énormément sur toi et que tu cherches, tu cherches la limite, toi. Tu te dis toujours, où est-ce que je suis capable d'aller, ouais. Et toi d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que c'est ce qui te fait le plus kiffer, c'est d'augmenter la distance petit à petit, tu vois? Moi j'ai connu un peu cette boulimie là, tu vois, j'ai eu un peu comme toi, j'ai commencé à courir, 4 mois plus tard je faisais un semi, 1 mois plus tard je faisais mon premier marathon de Paris en accompagnant un pote, je devais faire juste 20 bornes et puis après je me sentais bien, j'ai fait les 42 et après boum, j'ai fait un 50. Bon, après je suis passé sur du triathlon où du coup c'était un autre défi, tu vois, mais je suis vraiment tombé un peu dans cette boulimie ou dans cette addiction de toujours plus loin, tu vois. Et est-ce que toi, ta vision de la progression, c'est toujours plus loin, genre augmenter la distance, ou est-ce qu'à un moment tu te dis bon, il y a une distance que j'aime bien et je vais essayer plutôt d'augmenter ma vitesse ou et tu vois d'augmenter la performance sur une distance donnée ou sur une course donnée, tu vois.
Ben ça a évolué. Alors au tout début, c'était déjà de d'inscrire un peu au tableau de chasse les distances mythiques. Donc c'était le semi-marathon, le marathon, l'éco-trail de Paris, le premier 100 bornes en montagne, le premier ultra. Donc accrocher tout ça. Une fois que j'avais accroché tout ça, mon premier ultra c'était la diagonale. J'ai dit bon c'est bon, t'as découvert, t'as fait le tour en 2 ans, t'as découvert tout. T'as fini le boss de fin en 2 ans.
C'est fou, franchement.
C'est comme les je sais plus comment on appelle ça en gaming, les speedruns pour finir le jeu le plus vite. J'étais malheureusement, je pense, là-dedans et j'avais voilà, je voulais le toujours plus. Il y a eu cette diagonale et puis derrière.
Tu cherches quoi d'ailleurs quand tu augmentes toujours la distance, c'est quoi, c'est ouais te montrer que c'est impossible, mais tu vois, qu'est-ce que tu gagnes? Est-ce que c'est de l'ego? Est-ce que c'est de la dopamine, de l'adrénaline? Est-ce que c'est tu veux prouver un truc, je sais pas, à tes parents? Ou moi, je sais que le marathon c'était pour prouver à mon père que j'étais capable de le faire, tu vois, c'est un truc con, mais je voulais prouver à mes parents que je pouvais le faire, quoi. C'est tout bête, hein, mais
j'ai beaucoup de dépendance, j'ai beaucoup de vices, que ce soit l'alcool, la cigarette, enfin il y a plein de choses sur lesquelles je me sens dépendant. Et vis-à-vis de la course à pied, j'ai pas du tout ressenti ça. C'était plutôt ce que tu viens de dire, c'est-à-dire c'était plutôt par rapport à des proches ou par rapport à l'envie de palmarès, c'est pas le mot parce que ça fait trop fiche Wikipédia, mais c'était c'est un peu ce que je dis très souvent. C'est j'aimerais bien pouvoir dire à mes petits enfants, papy, il a fait le marathon. Et à la base, moi, ça a démarré un peu comme ça. C'était beaucoup déjà pour pouvoir le raconter à mon propre papy. Regarde papy, regarde son petit fils qui fait, pour qu'il soit fier de moi. Et puis après, mon papy est décédé. Et je me suis projeté dans le moi papy, donc je me projetais pas par rapport à mes enfants, mais par rapport à mes petits enfants, quoi. Donc dans un truc qui arrivera dans 1000 ans, non, mais dans quelques années, dizaines d'années. Et c'est bon, ben bah, papy il a fait un marathon, hein, il a fait la diagonale des fous à 25 ans, papy il a gagné sa première course, il a gagné son premier ultra. Il a fait plein de podiums et je suis encore un peu dans cette envie maintenant de me dire bah tu pourras raconter à tes petits enfants que et là il y a les 3 petits points et les 3 petits points c'est encore les 2, 3, 4 ans qui viennent et donc je cours plus en me disant qu'il faut que j'aille chercher des trucs encore plus gros ou plus fantastiques qui peuvent plus intéresser les médias, les gens, les followers, mais je me dis qu'est-ce que t'auras à raconter dans tes vieilles années quand il faudra le faire le bilan de ta vie. Quel est le bilan de ta vie pour citer une chanson. Mais voilà, je suis un peu dans ce truc là, c'est j'aimerais bien plus tard me retourner et me dire ah putain, là tu peux pas avoir de regrets, t'as fait le truc à fond, t'as vécu ta vie à fond. Ouais. C'est un peu cette philosophie, il y a une phrase qui dit et je suis assez d'accord avec ça, c'est moi, je souhaite pas mourir à... La première fois que je l'ai entendu, j'avais 26 ans. Je souhaite pas mourir à 26 ans et être enterré 50 ans plus tard, dans le sens où voilà, il faut profiter de sa vie à fond au moment où on la vit. Bien sûr, faut le faire intelligemment. Bien sûr, je vais pas aller me foutre un bandeau sur les yeux, prendre le périph avec un scooter et attendre qu'une bagnole me shoote. C'est pas ça, profiter de la vie. Mais le faire intelligemment, mais essayer de faire quand même des grandes choses, ou du moins des choses que soi-même on pense grandes, parce qu'au final l'intérêt c'est que soi-même, on s'en fout de ce que peuvent penser les autres ou de ce que peuvent raconter les autres, encore plus avec les réseaux sociaux. mais voilà, moi je serais très content si dans 50-60 ans mes petits-enfants ils ont un exposé à faire à l'école et que leur exposé ce soit sur je sais pas quelqu'un de leur famille ou quoi, et qu'ils puissent raconter l'histoire de ce papy qui à 25 ans faisait la diagonale, à 30 ans gagnait l'UTMB, c'est l'année prochaine, hein, mais ça n'arrivera jamais, et qui à 40 ans finalement se trouve tourner vers le ping-pong, à 50 ans devenait joueur d'échecs et qui à 60 ans faisait un autre truc encore différent, mais donc voilà, donc moi je suis dans cette projection, je sais pas pourquoi j'ai cette projection, je pense que c'est le rapport à mon grand-père à moi qui fait ça. Mais donc je suis là-dedans et je suis pas, donc pour revenir au sujet du tout départ, je suis pas dans le toujours plus de on va faire plus de kilomètres. Même si là on enregistre, on est en septembre, la semaine dernière il y a le Tour des Géants qui s'est terminé. Moi j'ai jamais fait de trucs qui font 330 bornes et 27 000 mètres de dénivelé d'après la course et 34 000 selon la police. Même si voilà j'ai des trucs comme ça qui me titillent, qui me donnent envie d'aller chercher un petit peu plus loin et d'aller chercher des limites, enfin mes limites parce que je pense que je les ai pas atteintes, j'ai envie de me prendre des claques, donc même si j'en ai pris 2-3 en découvrant l'ultra, c'est pas que je trouve que maintenant c'est simple hein, maintenant terminer un ultra et le gagner ou être sur un podium ou être bien classé, je trouve pas ça tellement plus simple que d'être dans le peloton parce que j'ai vécu les deux.
C'est même plus dur dans le peloton, qu'on se le dise.
Bah ça c'est une question. Là je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'ai vécu les deux. J'ai vécu dans le peloton. J'ai fait les mêmes courses dans le peloton et tout devant.
On peut rentrer dans le débat, mais je trouvais que c'est beaucoup plus.
Je pense que scientifiquement, effectivement, si tu souhaites rentrer dans ce débat-là et que scientifiquement l'effort est plus long, que ça prend plus de temps, que ça dépense plus de calories, que le corps est peut-être moins préparé, mais à vivre de l'intérieur, j'ai fait des courses, la Saint-Élion, ma première, je dois terminer, je sais pas, 1600e. Quelques années passent, je fais l'aller-retour de la Saint-Élion, bon, on va dire que c'est pareil, mais si on prend que le retour, je crois que je fais 30e juste sur que le retour en temps Saint-Élion.
Okay.
Bah, c'était 1000 fois plus dur de faire un classement à l'avant qu'un classement dans le peloton, parce que très sincèrement, l'effort physique que ça me demande, la concentration, le fait de vouloir être focus à 1000% sur le ressenti que j'ai du moment, le fait qu'il faut que je continue à avancer. Avant, je marchais, je prenais mon temps, même si c'était très dur par rapport à mon état physique de l'époque. Je pense que l'écart entre l'état physique et le résultat que j'avais de l'époque est moins important que l'état physique dans lequel je suis maintenant et mon classement de maintenant. J'ai l'impression de franchement vachement plus puiser et de vachement plus aller chercher et surtout de vachement moins profiter. Ça, on s'en rend pas compte, mais tout le monde dit oh, bah, ça doit être facile pour les premiers, ça se termine vite, etc. Une Saint-Élion où t'es avec plein de potes, t'es dans le peloton, tu peux discuter, tu rigoles, etc. Il y a des mecs qui pètent, ça pue, marrant, tu savoures le moment.
Ouais.
Devant et en plus quand t'es sur la Lyon Saint-Élion, que tu te retrouves premier, que t'as la pression du classement, ça devient invivable et tu profites vachement moins. Et moi c'est une époque que je regrette. Hein. Je regrette l'époque où j'étais dans le peloton parce que je profitais vachement plus de mes courses. J'avais gardé des meilleurs souvenirs. Là aujourd'hui, je profite autrement, mais ce que j'aimais dans le trail à l'époque, je l'ai totalement perdu, quoi.
Ok. Et tu penses pas que c'est dû qu'au début, t'as aussi ce, c'est un peu normal, t'as ce sentiment de découverte où tu découvres une distance, tu découvres une course, tu te découvres toi-même, t'as pas d'objectif de temps, en fait. Tu vois, la première fois que tu fais une course, surtout quand c'est une distance qui t'est inconnue, tu vois, ton seul objectif, c'est de terminer, tu vois. Je crois que ta première diag, il me semble avoir entendu que t'avais jamais couru plus de 15 heures d'affilée et que tu prévois de faire entre 35 et 40 heures, donc t'es complètement dans l'inconnu, donc t'as ce côté où chaque minute de plus que tu grappilles par rapport à ton record, tu t'en profites, en fait. Tu savoures et tu te dis, putain, là j'ai fait 16 heures, ah j'ai fait 17 heures, ah j'ai fait 18, tu vois. Et ainsi jusqu'à, je crois que tu fais... C'est ta première, je sais pas combien tu fais, mais en tout cas plus 34, 35 ou en tout cas...
Je fais 33 secondes.
Oh putain. Ok. Costaud quand même, attends.
Costaud, je sais pas, j'aimerais bien faire en beaucoup moins. mais j'en gardais un souvenir de fou. Parce que effectivement, comme tu viens de le dire, moi ça faisait 2 ans et demi que j'avais commencé la course à pied. Je sortais d'école de commerce, je pesais le poids que je pesais, 20-25 kilos en plus. Je me remettais au sport après 5 années d'école de commerce, donc j'avais un physique qui était pas à zéro, mais qui était à moins que zéro. et 2 ans plus tard, je me retrouve sur la Diag après m'être inscrit en rentrant de soirée ivre mort après une soirée en boîte.
La fameuse histoire.
La fameuse histoire de l'inscription où avant quand je rentrais de boîte, j'avais des tickets de carte bleue et je regrettais mes tickets de carte bleue et là en fait ce que je regrettais après être rentré c'était les planches pour ceux qui connaissent sur Paris.
C'est bien les souvenirs EDC planches.
Moi j'étais souvent que ce soit le Bonheur des Dames, la Nouba ou sinon un petit peu le samedi mais j'étais présent. Je connaissais la playlist par cœur, c'était atroce.
Okay.
J'arrête de digresser. Mais donc je m'étais inscrit à cette Diag. J'avais quoi comme passif? J'avais quasiment rien comme passif en termes d'ultra. C'est-à-dire que j'avais fait peut-être 2 fois les Co-Trails de Paris. J'avais découvert vraiment ce que c'était le trail sur les Templiers, le 76, où je termine au milieu du peloton. Je m'étais inscrit à la CCC la même année que la Diagonale et coup de bol, j'avais été tiré au sort. Donc je découvrais la même année mon premier 100 km en montagne et la vraie montagne fin août. Et juste derrière, j'avais cette Diagonale en octobre. Et j'arrive sur la Diagonale en me disant à l'époque, ces gens sont étranges, ces gens sont pas comme toi. Toi, t'es un petit Parisien fêtard.
t'es tout jeune en plus, parce que tu...
J'étais pas très vieux, je devais avoir 24 ans, 25 ans.
Mais sur une Diagonale, t'es un des plus jeunes. Enfin, tu fais partie du 1 ou 2% des plus jeunes, tu vois. C'est...
Plus maintenant, en fait, avec la jeunification de ce sport. Jeunification, ça fait un peu, t'es genre comme si j'aimais pas ça, mais j'adore ça. Moi, je suis très content de voir des mecs. J'ai fait la Diagonale des Yvelines une autre il y a 2 semaines, j'ai une nana de 19 ans qui est venue me voir, elle avait gagné le 20 km et elle me demande des conseils, je lui dis j'ai aucun conseil à te donner, moi t'as 19 ans, tu viens de gagner la course, c'est magnifique, continue, fais comme, enfin a priori ça marche ta méthode.
Ouais.
Je reviens à la Diagonale. J'étais jeune effectivement et autour de moi il y avait, même je me rappelle dans le SAS, j'avais que des mecs qui étaient musclés, préparés, et le mieux c'était juste avant de partir, donc ils nous font avancer du pré-sas vers le sas réel, et je me tourne vers la gauche, et il y a un mec ultra concentré, qui met ses écouteurs, qui vérifie 3-4 fois, et qui vient me parler, et qui me dit « c'est ta première Diagonale ?» Je dis « ouais,
ouais. » Non, j'en ai déjà fait 15.
Je lui dis « Et toi ?» Il me dit « moi c'est ma troisième, j'ai abandonné 2 fois, cette fois-ci j'aimerais bien aller au bout en 55 heures. » Moi je regarde, je dis mec, mais qui es-tu, d'où viens-tu, quoi? Pourquoi tu te fais ça? Et ce que je m'étais rendu compte à ce moment-là, c'était que moi j'avais rien à foutre en fait dans ce sport-là, et j'étais, tu vois, tu parles d'extraterrien, là on est dans un podcast qui s'appelle Extraterrien, moi j'ai plutôt la sensation d'être un ovni là-dedans et de passer, de tiens, c'est un objet courant non identifié. et j'avais cette sensation là à l'époque et je trouvais ça, en fait, c'était tellement agréable de sentir que on avait rien à voir avec le milieu et avec ce dans quoi on était en train de se lancer, et j'étais totalement déconnecté de ça. Je sais pas, c'est comme si tu mettais quelqu'un qui aime uniquement le classique et les ballets du 15e en do majeur, et que tu balançais dans une soirée art tech après la techno parade à Paris. J'avais cette sensation là à l'époque d'être complètement en dehors de cet environnement. Et au final, cette Diagonale, ça a été très dur. C'est un souvenir, mon plus grand souvenir de course pour l'instant, parce que je l'ai pas encore refaite. Et c'était juste pour moi, en fait, la découverte d'un monde, et ça m'a ouvert des portes, et je me suis rendu compte en la terminant que ce monde existait. Et je termine et je fais un top 100 et je me dis, en plus ce monde existe, et en plus a priori, t'es plutôt à l'avant. Et donc quand tu m'as posé tout à l'heure la question de est-ce que, je sais pas si c'était en off ou dans le podcast, je suis désolé.
Vas-y.
Mais quand tu m'as posé la question de me dire à quel moment ça commence à te titiller forcément, de te dire t'es pas mauvais, est-ce que tu veux pas bifurquer un peu dans ce sport-là, à la fin de la Diagonale, je me suis dit... c'est cool, t'as terminé, tu vas pouvoir le raconter à tes petits enfants, mais surtout, mince quoi, si tu le fais aussi facilement avec des guillemets, taille 80 en police. est-ce que tu continuerais pas? Est-ce que tu irais pas chercher plus loin? Et est-ce que tu peux pas en faire d'autres? Qu'est-ce qu'il y a? Et je connaissais rien de ce monde-là, moi. Vraiment, la diagonale, je suis tombé dessus parce que j'ai vu des vidéos sur YouTube de Kylian Jornet qui la faisait. Et parce que je me suis passionné pour un documentaire qui m'expliquait qu'est-ce que c'était que la diagonale, mais je connaissais rien de ce milieu-là. Et donc petit à petit, après, je me suis dit, ah, il y a ce monde qui existe, j'ouvre les fenêtres, ah, il y a d'autres trucs qui existent. Ouais. Donc ça m'a donné envie de découvrir et d'aller maintenant en faire un petit peu partout. Et donc tu vois, c'est pas ce mode qui est je suis drogué, je veux en faire toujours plus. C'est wow, ça existe, toc toc. Ah oui, tiens, là aussi il y a un autre truc. Et donc c'était vraiment de la découverte. Là où maintenant, ça c'était donc en 2018, donc il y a 3-4 ans. Là où maintenant, effectivement, je commence à pas avoir fait le tour parce qu'il me reste encore des milliards, il y a encore plein de choses à découvrir. Mais je connais mieux l'univers des 100 miles en montagne. Maintenant, je vais plutôt aller chercher effectivement d'autres choses. Je vais pas chercher un finish. Ça serait hypocrite de dire que quand je vais sur une course, c'est juste pour aller chercher le finish. Je vais aller chercher peut-être un temps ou un classement, sans me dire que j'ai envie de faire la compétition, parce que j'ai pas envie d'aller me battre avec les autres. Moi, mon délire, c'est juste d'arriver et de faire le truc le plus vite possible, peu importe le nombre qu'il y en a devant ou derrière. Si moi je l'ai fait aussi vite que ce que je pensais pouvoir faire, c'est là où je vais prendre mon plaisir. Ouais. Donc pas une drogue, juste un plaisir.
Ok, mais très bien dit. Mais c'est ouf. Je veux dire, l'ascension que t'as et la vitesse à laquelle tout ça va, tu vois, et effectivement, tu vois, je peux comprendre que quand tout va super vite, que tu découvres un univers, quand tu découvres un univers sur lequel tu connais rien, et qu'en plus tu progresses dedans à une vitesse assez folle, tu vois, et que t'atteins hyper vite, tu vois, tu te considères au haut niveau ou pas?
C'est compliqué. cette question est compliquée. On m'avait posé la question aussi de est-ce que je suis un élite
et t'ouvres la porte du haut niveau, on va dire. OK, tout cette porte-là. Bah forcément, tu vois, je peux comprendre que tu sais, il y a un moment où tu te dis putain, mais où est-ce que je suis? Est-ce que je prends toujours autant de plaisir? Est-ce que l'adrénaline elle est toujours là? Tu vois, enfin, je peux comprendre aussi que au bout d'un moment, tu sois un peu que tu peux juste te dire, mais c'est quoi le prochain challenge? Parce que j'ai besoin encore plus, tu vois, de cette dose de découverte, tu vois. Franchement, je comprends ce que tu ressens, tu vois. Je comprends ce que tu
vois. À l'époque, je considérais que les mecs qui terminaient tout devant, c'était des extraterrestres. Déjà, les mecs qui terminaient, c'est des extraterrestres. Mmh. Les mecs qui étaient tout devant, c'était des extraterrestres qui avaient un ADN particulier, qui avait toujours vécu à la montagne, qui avait tout bien fait pour réussir. Et même si fondamentalement, il y a un truc dans lequel je crois pas dans le talent. Je pense pas que ça existe. Je pense que c'est Brel qui dit ça, mais le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est juste le fait d'avoir envie, c'est le travail, c'est la sueur. Je suis totalement là-dedans, mais je me disais à l'époque, ces mecs, peut-être que eux, ça existe le talent pour eux. Petit à petit, là j'ai commencé à me rapprocher, je suis pas encore tout devant et je pense que j'en suis encore loin. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que ces mecs que je pensais être des extraterrestres, en fait pas du tout, ils ont deux jambes et deux bras exactement comme moi. Et en fait j'étais idiot de penser que c'était des extraterrestres à l'époque. Maintenant, il y a des mecs qui pensent que moi je suis un extraterrestre, mais j'ai envie de leur dire mais pas du tout, enfin vous... arrêtez de dire ça, c'est pas vrai. Vous aussi vous pouvez le faire. C'est réalisable pour tout le monde et cette notion de d'écart entre les gens qui sont dans le peloton et les mecs qui sont tout devant, ça m'a fait plaisir au final avec le temps, en réussissant les petites perfs que j'ai fait, de réussir à le déconstruire d'une certaine manière. J'ai toujours adoré ça, moi, que ce soit dans le sport ou dans la vie, c'est de déconstruire quelque chose qui est normé, sur lequel on a fixé des règles, et apparemment il faut absolument suivre ces règles et faire comme ça. Moi, dès que je peux prouver que votre règle là, ou votre façon de faire, arrêtez, c'est du bullshit. Regardez, moi je fais autrement et ça marche aussi bien. Ça me fait plaisir. Et donc, Je veux pas dire que je suis dans ce vice-là maintenant de prouver que c'est possible de faire en faisant autrement. Mais effectivement, ça me fait toujours plaisir maintenant de me dire que je réussis seul et je réussis sans faire comme les autres. C'est un peu la chanson de Céline Dion là où elle dit les autres font ainsi, mais moi je ne suis pas les autres. Ouais. J'ai ça en tête quoi.
Ok, trop cool. J'ai une petite envie de pisser et j'ai un copain podcasteur Mathieu Stéphanie, ce qu'il fait, c'est qu'il part 2 minutes. Et qui laisse son invité au micro tout seul.
Il sait pas ce qu'il dit. Juste, il faut que tu me lances sur un truc et après moi je vais digresser.
Et ben, et tu vois, je voulais parler. Ouais, mais je vais avoir envie d'écouter la réponse.
Je parlerai assez fort.
J'ai envie d'écouter la réponse. Non, tu dis ce que tu veux, mais sinon je te lance le prochain sujet. C'est le sujet un peu de peut-être de l'humilité par rapport à ça, tu vois. Tu m'as dit que t'étais un faux humble. Bon, spoiler alert, désolé, je t'ai trahi. Ouais. Mais est-ce que, tu vois, au bout d'un moment, tu vois, quand ça va aussi vite, les gens, ils te le disent, tu vois. Ils le savent. Et sur des mecs qui font des podiums à moins de 30 ans entre elles, il y en a vraiment pas beaucoup. Tu vois, il commence à y en avoir, tu l'as dit, ça s'est beaucoup rajeuni. Mais c'était un peu, la question par rapport à ça, c'est, est-ce que le rêve au fond de toi, c'est de devenir est-ce que t'es inspiré par effectivement des personnalités qui font des top numéros, enfin des qui font des podiums et tout? Est-ce que c'est ça qui te fait vibrer, ou est-ce que t'as pas du tout envie de rentrer dans ce monde-là finalement? Tu vois, quand je t'entends parler, tu vois, j'ai un peu l'impression que quand t'as découvert justement l'élite, le haut niveau, tu t'as dit toi-même que tu prenais pas de plaisir, donc. Tu vois, c'est quoi la prochaine step, tu vois? C'est plutôt le, est-ce que t'as envie de faire un top 3? Est-ce que t'as envie de faire de devenir cet extraterrestre, ou plutôt de faire autre chose? Je suis parti en couille sur cette question, j'ai vraiment envie de faire pipi.
Les top départ pour le pipi, et maintenant c'est moi qui enchaîne.
Vas-y, elles sont où les toilettes?
Alors, vu que l'appart est immense, il va pouvoir, alors tu prends le troisième couloir, tu fais 150 mètres, et puis au fond, tu verras, là, donc là, il y a un bosquet, il y a un petit jardin, tu sors de l'autre côté, tu traverses, c'est juste là et en face. tu fais 1 mètre, c'est la première porte. Alors, ce qu'il me disait, c'était que j'étais un faux humble, ce qui est vrai, selon moi, c'est-à-dire que j'ai commencé très tôt à partager sur les réseaux sociaux ce que je faisais. Ça a commencé où j'allais faire 5 ou 10 kilomètres et je partageais ma gueule transpirante, et puis je me suis fait engueuler par une de mes copines en me disant « j'en ai marre de voir ta gueule ». Et donc j'ai commencé à poster la casquette. C'est créé tout l'univers de la casquette, j'ai commencé à faire mes premières courses, à raconter mes courses, et j'étais dans le milieu de peloton, et après les résultats se sont améliorés, mais quand les résultats se sont améliorés, petit à petit, il y a des gens qui ont commencé à m'encourager ou à me féliciter, à me dire waouh, putain, c'est impressionnant, vraiment c'est pas mal ce que tu fais, en plus en tant que parisien c'est vraiment pas mal, alors que je terminais encore, pour moi, je sais pas, 600e d'une Saint-Élion. Et les résultats ont continué encore à grossir. Il y a eu cette diagonale des fous avec le top 100. D'ailleurs, je fais, l'année d'après, je crois que je fais je gagne sur le Mad Trail. Je fais un top 10 sur l'Endurance Trail des Templiers. Et là, ça commence encore à grossir. Et j'ai les deux sons de cloche. J'ai les gens qui me disent, écoute, tu vas trop vite, tu vas te faire mal. Tu vas te casser les genoux, tu vas te brûler les ailes, et moi, avec mon état d'esprit, je les envoie se faire foutre, clairement, en leur disant oui, c'est ça, t'as raison, et je t'écoute pas, ok boomer.
Je voulais te poser cette question d'ailleurs, s'il y avait des gens qui te faisaient des remarques un peu négatives sur la rapidité de ta progression. Oui, je suis revenu.
Il est revenu.
J'ai été éclair.
Face pipi, hein, sachez-le. C'est.
J'ai eu le temps de me laver les mains, je préviens.
C'est vrai. D'ailleurs, j'ai entendu. D'ailleurs, chérie, si tu écoutes, sache qu'il a bien relevé la cuvette. Cet homme est incroyable. sur la progression, effectivement, toi tu dis qu'elle a été très rapide. Moi, j'ai la sensation qu'elle a pas été rapide par rapport à la façon dont je l'ai vécu. C'est-à-dire que 2 ans, j'ai trouvé ça long pour pouvoir faire un 100 miles. Les normes disent que il en faut beaucoup plus, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi les normes, je les écoute pas, et le premier, la première personne qui me dit oui mais on dit que, ou les spécialistes que, ou on lit que, je m'arrête au mot que, et je veux pas savoir ce qu'il y a derrière. parce que j'ai entendu mille fois le pas plus de deux marathons par an. L'année dernière, des marathons en cumulé, j'en fais 247. Et c'est pas pour me vanter ou pour me la péter que je dis ça, c'est juste que.
T'aimes courir, t'es fait pour ça, quoi.
Voilà, c'est, je me suis pas posé la question, je me suis pas pris la tête, et on nous met trop dans une case, c'est un peu un lieu dit de dire ça, mais c'est, on aime trop créer une sorte d'étiquette ou de dire la normalité fait que, ou pour réussir il faut que, ou tous les articles qui peuvent sortir qu'on voit passer partout, qui sont un peu putaclic, où il y a marqué comment bien apprendre à descendre, le top 10 de des choses à absolument faire pour pouvoir réussir. Waouh, moi quand je vois des trucs comme ça, mais c'est je me marre à des kilomètres, parce que je me dis, mais la personne qui écrit ça, elle est malhonnête pour moi. Et les gens qui le lisent, malheureusement, il y en a plein qui ont pas, qui découvrent. Donc ils vont se faire bouffer par ces préceptes. Et malheureusement, ils vont peut-être les suivre ou les écouter. Moi, je suis convaincu. Il y a un truc, l'étirement.
Dis-moi.
Voilà, l'étirement. Je suis convaincu depuis des années et des années que les gens s'étirent parce qu'ils voient les autres gens s'étirer. Je suis convaincu de ça. Je ne me suis pas étiré depuis que j'étais au collège et que j'ai vu d'autres mecs le faire. Depuis que je cours, je me suis jamais étiré, ni avant, ni après une course. Et je suis convaincu qu'on a créé une norme et qu'il faut faire semblant de s'étirer avec le pied sur le bord du truc à la sortie du bois à la fin de son run, parce qu'on a vu les autres gens le faire. Ça m'énerve, je suis obligé de vivre avec, mais ça m'énerve. Et donc, si par ce que je fais, j'arrive à démontrer qu'on peut faire autrement, c'est pas une lutte en soi, hein. Je suis pas en train de lancer la grande révolution de il faut faire autrement, il faut absolument être contre le système. Mais ce que je veux juste dire, c'est il y a pas besoin de se prendre la tête, il y a pas besoin de suivre des préceptes, il y a pas besoin de je sais pas ce que ça veut dire VMA fractionné, VO2 max.
T'en fais jamais.
Tous les mots comme ça, je sais pas ce que ça veut dire et je ne veux pas savoir. Et dès que je vois un article qui en parle, je clique sur la petite croix rouge en haut à droite parce que je trouve pas ça intéressant et j'ai trop l'impression que malheureusement, on laisse pas la chance à l'humain et on laisse pas les gens grandir et apprendre tout seul. Et moi, ce que j'ai adoré dans l'ultra, c'est que j'ai appris d'une certaine manière tout seul. Quand on va reparler de la diagonale, mais quand je suis parti sur la diagonale, par exemple, je pensais que pour faire du sport, il y avait pas besoin de manger de sel. En fait, qu'il suffisait de prendre du sucre, de manger des pâtes de fruits, des gels, etc. Et donc moi, je suis parti sur la diagonale comme ça. Au bout de 100 bornes, j'ai fait 2 malaises. Et voilà. Là, j'avais pas compris encore. Au ravito d'après, j'arrive à rejoindre un ravito après mes 2 malaises. Il y a un secouriste qui vient je lui explique ce qui m'est arrivé. Et il me dit t'as mangé quoi? Je lui explique que j'ai mangé. On peut citer des marques ou on va avoir des problèmes?
Non, vas-y. Non. C'est
j'ai cité ici. 10 gelgus et j'ai pris 5 coups de fouet. Il me dit c'est tout? Je lui dis ouais, normal quoi, diagonale. J'ai bu de l'eau aussi. Il me dit t'as pas mangé de salé? Et je lui dis non. Il me fait t'es taré ou quoi? Je dis mais pourquoi? Enfin, il y a besoin de ça. Il me dit ouais, bien sûr. Enfin, t'es pas au courant, genre ton corps il a besoin de tout ça. Et je l'ai appris en le faisant. Et moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est de me prendre cette grosse claque et d'apprendre en le faisant moi-même et de découvrir au final. Effectivement, peut-être qu'il y avait des gens qui l'avaient conseillé dans des blogs, qui avaient dit écoutez les mecs, prendre que des gels, voilà, les 5 trucs importants à manger ou prendre que des gels sur la course, ça va pas le faire. Moi ce que j'ai aimé c'est de me rendre compte en vrai et je l'ai appris par moi-même et j'ai trouvé ça fabuleux comme un gamin qui pour apprendre que la plaque de cuisson elle est chaude, il a besoin de passer la main une fois dessus et de se brûler pour se rendre compte qu'elle est chaude. Et c'est ce que j'ai aimé moi dans ma façon de d'apprendre l'ultra et de progresser dans l'ultra. Et il y a encore plein de trucs que je sais que ça existe. Je sais qu'il y a des préceptes dessus. Je veux pas les essayer parce que je préfère encore continuer avec mon innocence et ma méthode et découvrir par moi-même. Peut-être que ça marcherait effectivement vachement mieux si je faisais du fractionné, de la VMA, si je faisais du repos, etc. Mais pour l'instant, je continue avec ma méthode et ouais. Tant que ça fonctionne et que je me fais plaisir avec cette méthode-là et que ça continue à surprendre des gens, ben moi j'ai envie de continuer quoi.
Ah, ok. Mais tu vois, c'est vraiment le truc que j'adore chez toi, c'est que tu fais les choses à ta manière et à tous les niveaux, tu vois, autant que ce soit sur effectivement la façon avec laquelle tu communiques, mais la façon avec laquelle tu t'entraînes, la façon avec laquelle tu cours et tout. Et il y a un côté un peu ouais, allez tous vous faire voir, laissez-moi tranquille et puis je verrai bien. Et puis si je fais des erreurs, en fait, c'est peut-être que j'ai besoin de les faire ou j'ai envie de les faire parce que c'est comme ça que j'apprends, tu vois. Et peut-être la question, tu vois, que je me pose, c'est t'es pas, vu que tu casses pas mal de codes, t'es pas face à pas mal de jugements ou tu vois, par des moments tu te dis qu'on vient de demander conseil, tu vois, que tu te sens pas légitime à conseiller des jeunes, des gamins et tout. Ouais, tu fais pas face à du jugement des fois de gens qui disent il écoute rien celui-là, c'est un petit con, tu vois, ça tend du... Je pense que ça doit t'arriver, tu vois, mais est-ce que c'est déjà, est-ce que ça t'arrive? Et si oui, est-ce que ça endurcit? Enfin, j'ai l'impression que ça t'endurcit en tout cas. Mais tu vois un peu ce que je veux dire?
Parfaitement. Il y a un bout dans ta question où je vais commencer par ça et après on parlera du jugement des autres. Sur l'aspect conseil, effectivement, il y a pas mal de gens qui viennent demander des conseils parce que ils voient ce que j'arrive à faire, ils se disent bon ben il a peut-être des astuces, des trucs magiques qui font que ça marche parce que a priori, il a un discours qui est dissonant par rapport à ce qu'on peut entendre ailleurs et donc peut-être que lui, il a découvert un petit truc, une porte secrète qui permet d'y arriver autrement. Et donc moi généralement quand surtout des jeunes qui commencent viennent me voir et me demandent des conseils, je réponds à leurs questions, je leur donne des conseils et généralement je termine toujours là-dessus. Mon dernier conseil, c'est surtout n'écoute pas les gens qui te donnent des conseils. Surtout, voilà, tout ce que je viens de dire, tu le prends, tu le serres, tu le mets en boule, tu le jettes et fais comme tu le penses. Oui, je te l'ai dit, oui, peut-être qu'inconsciemment, tu vas essayer de suivre ce que je t'ai dit ou tu vas tester ce que je t'ai dit. Mais n'écoute pas les bruits qui sont autour. Ça, c'est juste sur l'aspect conseil pour l'anecdote. Sur le jugement, en fait, il y a eu deux périodes. Il y a eu la période de quand je commençais à les tout premiers résultats où les gens me disaient j'étais beaucoup encouragé et il y avait quand même pas mal de gens qui me disaient fais attention, te crame pas. Donc il y a eu cette période-là. Après, il y a eu une période qui était beaucoup plus difficile. Où ça a été la période de j'ai commencé à avoir des résultats mais qui n'étaient pas non plus incroyables et là les mecs en fait ils pensaient que je mentais, ils pensaient que c'était pas possible
progresser aussi vite.
Je faisais un top 10 sur l'art des choix trail, c'est pas non plus gagner la coupe du monde de football quoi, mais les mecs ils comprenaient pas que j'arrivais à faire ça avec ce que je publiais, c'est-à-dire mon entraînement réel, ouais. Et donc je me faisais énormément juger, critiquer au sens où c'est pas possible, il doit cacher des choses. Et vu que j'ai continué et que j'ai continué à communiquer exactement de la même manière, les gens se sont rendus compte que il est réellement comme ça. C'est peut-être il est têtu, il est abruti, il court 25 bornes par jour et il s'entraîne à Paris. Mais au final, quand on regarde les courses et les classements,
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Il arrive à gagner des ultras, il arrive à faire des podiums sur des courses et j'aime pas cette expression, mais C'est pas j'ai fait fermer des bouches, mais ça en a fermé sans qu'en fait j'ai besoin de le faire ou d'annoncer que attention, je vais fermer des bouches, attention. ça les résultats ont permis que les gens comprennent que j'étais pas dans une démarche de démonstration, que moi en fait je me faisais plaisir et que j'essayais de raconter vraiment le quotidien comme je le vivais, sans fleuriture, raconter aussi bien les trucs qui vont et qui vont pas. Un truc qui me choque par exemple, c'est souvent un ultra trailer pour moi qui est pas blessé, c'est juste que c'est un menteur, et souvent je suis blessé, et oui je parcours blessé, et souvent ça va pas, et souvent j'ai mal, et quand je raconte sur les réseaux sociaux que j'ai mal ou que je fais une sortie Strava en expliquant que j'ai le genou qui tire, les mecs ils me disent tout de suite putain, le genou qui tire, mais t'es à 4,40 sur 30 bornes là, comment, enfin arrête de dire ça quoi, tu te fous de notre gueule. Non vraiment les mecs, genre j'ai mal, juste je vous raconte la réalité, et voilà, il y a une sorte de dissonance entre moi, ce que j'ai envie de raconter, cette réalité de mon entraînement quotidien, et l'honnêteté, et ce que les gens voient. Et heureusement au final qu'il y a les courses et les classements pour dire aux gens si, regardez, en fait il triche pas, et il fait vraiment les choses comme ça quoi, il vous ment pas.
OK. J'adore la réponse. J'adore la réponse. En tout cas, c'est le t'es vachement transparent sur le fait que effectivement oui, il peut y avoir un peu de jugement, un peu de jalousie par moment, et que en fait faut vivre avec, et faut juste s'occuper de soi quoi. Faut juste se regarder soi-même un peu aussi d'abord, tu vois, et
je me dis qu'à mon niveau moi je le vis comme ça, j'ai sprint comme ça, mais j'imagine les grands sportifs qui ont une notoriété de dingue, etc. Et en fait
c'est tout le temps.
Je me dis que pour eux ce n'est plus supportable, et je comprends en fait maintenant j'arrive à comprendre le masque que certains sportifs, que j'arrive à comprendre, on va pas dire la fuite en Norvège, ça fait un peu le roi qui se barre, la fuite à Varennes, mais la fuite en Norvège de Kylian, j'arrive à la comprendre. C'est le mec, il a juste plus envie d'être commenté, il a envie de profiter et d'être dans son coin, et j'arrive à comprendre ça maintenant. J'arrive à comprendre ça parce que trop de monde, trop de pression, trop de commentaires. Écoutez les mecs, moi je vous parle avec honnêteté, si vous arrivez pas à le comprendre ça, c'est votre route quoi.
Ouais, je vois bien ce que tu veux dire, ouais. Puis comme c'est un univers qui se médiatise, qui se popularise et tout, t'as toujours des ragots, des jugements et tout, et c'est au bout d'un moment c'est chiant quoi. Ça enlève justement cette petite flamme d'enfant, cette passion que tu cites Kylian Jornet, je pense que il a senti qu'il perdait un peu ça, tu vois.
Je pense aussi, je l'ai peu rencontré, je l'ai croisé que deux fois, et c'est ce que j'ai senti chez lui. Moi je l'ai croisé dans des je suis sponsorisé par Salomon, donc j'ai eu l'occasion en soirée de le croiser, et moi j'ai senti que il était là, il faisait le job, mais que il préférait être ailleurs quoi, ce mec là et voir ça, en fait ça m'a fait dire que j'aurais même pas dû venir en fait. Certes, je prends mon petit plaisir personnel, je fais un selfie avec lui, il me signe une casquette, d'accord, c'est cool, mais au final pour lui c'est pas cool, et j'aurais pas dû le faire, je regrette Kylian, je sais pas. Si tu écoutes cet épisode qui est très roulant, on parle depuis 20 minutes de des gens qui critiquent, etc. Mais je vais pas te mentir, sur la réalité, j'ai 98% des messages qui sont des messages d'encouragement, j'avoue, qui sont bienveillants, et
tu fais bien de le dire.
On n'en parle pas. Enfin voilà, si on a parlé 20 minutes des mecs de qui crachent, on peut parler maintenant 3h30 des mecs qui me disent à quel point je suis génial, à quel point c'est bravo, à quel point je suis obligé de leur dire non mais calmez-vous les mecs, je suis pas Kylian.
Mais qui sait, peut-être demain tu le sauras.
Non, parce que on va reparler de l'écart que je ressens avoir entre moi et encore les mecs qui sont devant, les mecs et les nanas, parce qu'il y a des nanas aussi. En fait, j'ai la sensation de moi avoir débarqué dans ce sport à 23 ans sans rien connaître, comme j'ai raconté. Et quand tu débarques à 23 ans dans ce sport, t'as 23 ans de retard. Et je pense que
encore plus quand t'es parisien.
L'aspect parisien. C'est pas que je le mets en avant, Mais en fait, ça crée c'est comme dans les pièces de Molière, c'est une blague très récurrente et très facile à faire de quand j'arrive généralement sur une course et que le mec au micro, je sais pas, je fais un podium ou je gagne ou je fais un top 10 ou un top 25, on s'en fout. Il me tend le micro, il me fait "Ah, t'as fait une bonne course et tout, tu viens du coin." On est, je sais pas, à Chambéry, tu vois. Et je dis non, moi je viens du Val-de-Marne dans le 94 en région parisienne. Il me regarde, il me fait "OK, d'accord." Et j'enchaîne, je fais tu vois là la montagne que t'as là, moi la montagne dans laquelle je m'entraîne, elle fait 23 mètres de dénivelé, elle s'appelle Gravel, c'est dans le bois de Vincennes. Là, ce que tu vois là, c'est à peu près un mois d'entraînement pour moi. Et donc voilà, j'ai commencé à me faire ce petit plaisir et cette petite blague récurrente du Parisien à la montagne. Et d'ailleurs, je l'ai pas fait, j'aurais dû le faire pour l'UTMB. Je voulais acheter un drapeau de Paris, pas du PSG, mais le drapeau Flukiact, nourriture, ouais. Le bleu, rouge et bleu, pour pouvoir, parce que j'en ai marre de voir les Bretons faire ça. Donc j'ai envie de faire ça sur toutes les courses en montagne. Et je me suis retrouvé sur des courses Mad Trail. Première victoire, jour de la Coupe du Monde de football. Je devais me dépêcher parce que sinon je pouvais pas voir le match. Et la finale de la Coupe du Monde France-Croatie.
Okay.
Je gagne la course. Première victoire, je suis super content, etc. Par contre, là, je me suis rendu compte que gagner une course dans les Alpes où il y a du dénivelé et t'arrives devant les 5 mecs du coin, ça crée pas une tension, mais un espèce de... Voilà, un espèce de truc.
T'es venu gâcher la fête.
C'est un peu ça. Et d'un certain côté, voilà, il y a ce petit plaisir d'être venu gâcher la fête. C'est peut-être un vice, un côté pas cool chez moi, un comportement pas sympa, mais qui, moi, ça me fait plaisir.
Non, ça fait partie du sport, tu vois. Tu gagnes.
C'est ici.
Tu y penses, mais.
J'aime bien la taquinerie dans le sport, et il y en a. Il y en a assez peu, ou sinon généralement quand il y en a, elle est pas super. Mais j'ai 2-3 exemples de taquinerie et j'en ai un qui me vient en tête que j'adore. On parlait de Kylian tout à l'heure, on va parler de François Daen.
On va tous les faire.
François Daen, je l'ai pas croisé beaucoup, je l'ai croisé en course une ou deux fois. Mais en dehors de la course, j'ai croisé pareil sur un événement Salomon. Et sur cet événement Salomon, on est allé boire du vin, son vin du domaine Germain juste après. Il était venu à Paris. Et on parle de ce fameux record qui change de tête toutes les 3 semaines depuis 2 ans, des records en dénivelé positif sur 24 heures. Et moi, je lui parle de ce que je fais à Montmartre, des 271 allers-retours, ça fait 11 000 de dénivelé, etc. Et je vois dans ses yeux qu'il trouve ça complètement idiot, et on enchaîne sur les 24 heures de dénivelé, et il me dit c'est pas ouf hein, quand même, enfin c'est bien 17 000 mètres de dénivelé, mais pourquoi ils font ça sur un aller-retour, sur une toute petite côte, genre ça n'a pas de sens. Et donc lui, il a commencé à me dire, moi ce qui me plairait, c'était de réussir à faire 24 000 mètres de dénivelé sur une seule trace unique, d'un point A à un point B, de battre leur corps, de surtout pas l'annoncer avant. Donc que personne soit au courant, qu'il le fasse et qu'il poste ça sur Strava et qu'il laisse juste le sortie matinale. Et là je me suis dit, ok, ce mec-là il est taquin. Et donc quand tu vois pour moi c'est le plus grand champion d'ultra trail. Enfin peut-être qu'il y en aura d'autres à venir, mais je le considère au-dessus de tout le monde en termes de performance et de ce qu'il a accompli. Et quand tu vois que ce mec-là arrive à être taquin, j'ai fait ok d'accord. C'est ça que j'aime dans le sport, c'est que même le plus grand de tous les niveaux est taquin là-dessus quoi.
Ouais. C'est marrant que tu racontes cette anecdote et c'est un beau. Mais tu penses que c'est possible sur Terre de trouver une trace qui fait 25 000 mètres de dénivelé? Je pense que géographiquement c'est quasiment impossible, hein, sans faire une boucle. Tu vois.
Je pense que sans faire une boucle c'est une grosse galère. Je pense que il y a peut-être moyen en faisant des un peu ce que je fais à Gravel, des V dans une pente, mais de pas prendre en fait à chaque fois le même chemin. Je pense qu'il doit y avoir un ou deux endroits, peut-être pas en France, quelque part dans le monde, où il y a un espèce de flanc de montagne et on peut se le prendre et faire toute la largeur du flanc de montagne. Je sais pas, comme si tu prenais un massif et que tu partais de l'endroit le plus à l'est pour aller plus à l'ouest. Je pense qu'il y a peut-être moyen de le faire comme ça. Et je trouverais ça tellement classe que, en fait, un mec arrive, pète leur corps des 24 000 sur une seule trace plutôt que faire une boucle qu'on a appris par cœur et qu'on fait bêtement. Alors que moi, c'est ce que je fais au quotidien. À Paris, je fais le hamster, que ce soit Montmartre, Gravel, les buts de Chaumont, tout. Mais je trouve ça tellement classe. Et je trouverais ça tellement classe, pareil, de en fait, de pas prévenir et de le balancer et juste de l'avoir fait et que ça soit pas repris par les médias, on s'en fout. Ouais. Juste de, voilà, avec panache, j'expose votre corps, mais pas besoin de me marquer sur la fiche Wikipédia, je m'en fiche, quoi.
Ouais, ouais. Bah après, je suis partagé. Effectivement, il y a un côté effectivement classe quand t'as tout gagné à avoir un record un peu, un record en plus entre guillemets, que t'officialises pas et que tu fais juste et tout. Mais quand t'es un athlète un peu, peut-être un tout petit, tu fais de la marche en dessous. C'est quand même un record du monde, tu vois. C'est quand même un Guinness Book. C'est quand même un super plaisir. Et tu vois, et sur le côté aussi de, vu que j'ai interviewé, tu vois, Élise Delannoy, que j'adore, qui avait fait le record du coup féminin sur les terrils, tu vois. Mais il y avait du sens, tu vois, à le faire chez elle, dans le Nord, et un peu le côté un peu aussi elle revancharde de dire, je suis pas une nana des Alpes, je suis pas une nana de la montagne, je suis une nordiste, une petite du Schnorr, et moi sur mes terrils, je peux aussi m'entraîner et je peux aussi le faire, et je vais organiser ça. Elle a organisé ça en 3 semaines, tu vois, et il y avait la presse, mais tu vois, il y avait pas Stade 2, il y avait pas Intérieur Sport, tu vois, c'était le journal local, et bon, ça a été repris après, je pense, un peu plus, tu vois, et elle est venue sur Extraterrien quand même, mais tu vois, je veux dire, il y a aussi je pense chacun, tu vois, dans un record, faut trouver aussi son sens à soi, tu vois. Je pense, effectivement, pour un mec comme François, il y a pas forcément de sens, tu vois, aller écraser tout le monde sur un truc qui le fait chier juste pour dire je suis le meilleur. Mais tu vois, pour d'autres, ça peut faire du sens, tu vois, de parce qu'il y a un lieu, parce que c'est aussi une organisation, c'est aussi un plaisir de dire putain, j'organise un record. Tu vois. Et donc tu vois, je partage ton point de vue, tu vois, je trouve que c'est vraiment beau, tu vois, c'est un peu Zidane qui part sur un coup de boule.
Exactement, c'était le meilleur.
Mais il y a aussi, tu vois, faut aussi regarder l'autre côté où si tu te lances un truc aussi gros que ça, tu vois, quand t'es pas prêt, enfin où tu t'entraînes pour, tu vois, t'as envie que, enfin. Les deux côtés sont louables, tu vois. C'est ce que je veux dire.
Je suis totalement d'accord. Là, ma position, c'était qu'est-ce qui me fait encore rêver. Mais c'est marrant parce que ce que tu viens de dire, en fait, c'est moi actuellement. Enfin, on va le balancer comme ça. J'ai créé un truc qui s'appelle l'Ultra Trail Montmartre, qui est faire 271 fois les marches de Montmartre pour pouvoir atteindre 11 650 mètres de dénivelé. Je dis j'ai créé, en réalité c'est pas moi qui ai créé, c'est juste on s'est foutu avec 3 potes, on buvait des bières, il y en a un qui avait fait une sortie, il avait fait 3000 à Montmartre de dénivelé, on s'est dit ouais c'est pas mal 3000, viens on essaie de faire 10 000 dans Paris, viens on essaie de faire plus que les vrais en Paris. Et effectivement on a eu la sensation la première fois d'être pas des explorateurs mais de découvrir un autre monde en réussissant à organiser et à faire, parce qu'il y a un mec qui a réussi à finir, tu l'as reçu peut-être d'ailleurs, Guillaume Artus.
Ouais, bien sûr, ouais.
Et c'est première fois, il y a un seul mec qui arrive à terminer, c'est Guillaume, il met 25 heures et 12 minutes dans mon souvenir pour faire les 11 650 mètres de dénivelé dans Montmartre, Paris Intramuros, en 80 kilomètres. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de courses qui font 80 bornes et 11 000 de dénivelé. Et nous, on l'a fait à Paris, et donc effectivement, il y a une fierté qui se crée autour de ça. Première année, Guillaume le gagne. Deuxième année, j'étais un peu vexé, moi, d'avoir abandonné au milieu. Deuxième année, lui, il avait fait 25 heures. La deuxième année, je mets 18h30. Je fais, OK, bon, c'est bon. J'ai montré le bonhomme. Troisième année, alors je me retrouve dans un truc où je limite à 25 personnes parce que l'escalier, c'est l'escalier le plus touristique de France. Je peux pas mettre trop de gens dedans. Je me retrouve avec 450 mecs qui me demandent de s'inscrire. Donc, je suis obligé de faire un tirage au sort. Il y a des mecs qui veulent venir d'Italie, de Suisse. Donc, j'essaye de faire un tirage au sort un peu sympathique. Et il y a plein de mecs qui viennent, dont Christophe Nonorgue, un Suisse, qui avait l'ancien record du 24 heures de dénivelé. Et Christophe, il fait, il bat le record, il met 16h15. Moi, je mets 16h30 et tout. Super fier et tout. Quand je raconte ça en montagne, j'ai beau savoir, personnellement, je l'ai fait la montagne, j'ai fait des ultras en montagne, je sais que c'est dur, j'ai fait l'ultra Montmartre, je sais que c'est très très dur. J'ai beau raconter que c'est très très dur à des mecs en montagne, mecs qui me disent, mais tu fais un escalier à Paris, genre, c'est rien.
T'es un
hamster dans une cage. Et donc, ils m'ont un peu cassé cette vibes de c'est énorme, c'est fabuleux ce que je fais et tout, c'est extraordinaire, tu fais plus que les vrais dans Paris. Et finalement, en fait, je vais peut-être me venger en allant terminer devant eux sur leur course à eux, parce que ma réalisation, elle est trop cool, elle est trop cool pour moi. On a fait un peu parler de nous avec Montmartre, ça a fait rire plein de gens.
Et j'ai kiffé, franchement, il est trop cool ce projet, en vrai.
Mais il est trop cool, et en plus je suis un peu vicelard, je suis en mode un peu las de la Barclay, c'est-à-dire que j'ai essayé de le rentrer plus dur d'année en année, c'est-à-dire que déjà j'ai décidé que il fallait que ça soit deux jours après Noël tout le temps, il faut que voilà, on soit pas préparé, qu'on ait du champagne et du foie gras et tout ce qu'il faut pas dans le ventre. Départ à 22h, l'escalier le plus touristique de France. Et ce que j'ai décidé, c'était que c'est simple, le record de l'épreuve devenait le, comment on appelle ça, la barrière horaire,
le minima, ouais.
Le okay. Barrière horaire, le minima. Donc la première année il a mis 25 heures, bah la deuxième année, si tu terminais pas en 25 heures, t'étais seulement nicheur, t'étais pas finisher. Et pareil, okay, l'année suivante, si tu terminais pas en 18 heures et des brouettes, ils disent, etc. Donc maintenant il faut faire moins de 16h15 pour être finisher de cette course. Donc je pense qu'il y aura plus personne qui sera finisher de cette course
au bout d'un moment. Ouais.
Et en plus, de toute façon, j'ai pas les autorisations de la mairie de Paris ni de la préfecture de police pour pouvoir l'organiser, et vu que je veux pas terminer en prison, eh ben on va voir comment on peut faire. Mais mais donc pour revenir à ce truc là oui, moi j'aime bien voir les meilleurs et les plus grands et les plus forts réaliser des choses encore plus grandes, mais j'ai encore les pieds sur terre de me dire que chaque petite réalisation de quelqu'un, je trouve ça formidable. Quand je vais au bureau, moi je suis avec des collègues qui font pas forcément du trail ou de l'ultra, j'ai des collègues où lui il est content de me dire qu'hier il a couru 7 km dans le Boulogne, et ben je vais l'encourager parce que je trouve ça déjà très bien pour lui, et ça me fait le même niveau de plaisir, et j'ai pas besoin, je respecte autant ce mec là que François, quoi.
Ok. Ouais, ouais. Mais tu fais bien de le dire. Tu fais bien de le dire. On est à une heure d'interview, et je voulais vraiment, parce que je connais toujours pas l'histoire de, je connais toujours pas, effectivement, on peut se resservir un petit verre. Je connais toujours pas l'histoire de cette casquette. Donc j'ai envie que tu me racontes, et je sais que ça te fait pas plaisir de re-raconter quelque chose, ce que t'as déjà dit. Mais moi je connais pas, du coup je suis un peu égoïste. Et j'ai envie de te dire, mais merde, c'est d'où ça vient? Est-ce que c'est toujours la même casquette, ou est-ce que tu la changes de temps en temps? Moi, quand j'étais gamin et que je jouais au tennis, j'ai eu une casquette qui m'avait été offerte par un joueur, et je l'ai gardée pendant des années et des années. Elle était marron de sueur, tu vois. On voyait la trace de la sueur dessus et du sel, tu vois. Du coup, ouais, d'où ça vient? Pourquoi? Comment? Où est-ce que tu veux l'emmener, cette casquette? Tu vois, tu en as fait une petite marque, et je trouve ça d'ailleurs brillant, tu vois, en termes de communication. On dit toujours, tu vois, si tu veux créer une marque, il faut que t'aies un objet, il faut que t'aies un nom, il faut que t'aies une émotion, il faut que t'aies une couleur, et t'as un peu tout ça là-dedans, tu vois. C'est un peu ta marque de fabrique. Donc, dis-moi l'histoire, ça vient d'où?
C'est marrant que tu dises marque. Je rebondis juste là-dessus avant de raconter l'histoire, mais c'est marrant que tu dises marque parce que, maintenant, il y a plus en plus de gens qui me disent, on peut l'acheter, ta casquette, etc. Mais arrêtez les mecs, je vends pas des casquettes, je cours, quoi. Mais dans l'aspect marque, je m'en suis rendu compte après, et en fait, c'est, dans mon subconscient et dans mon subconscient, en fait, les années d'école de commerce, elles ont dû faire que cette casquette verte, elle apparaisse aussi. Je raconterai l'histoire, mais il y a ce truc là, c'est quoi? C'est KISS, c'est Keep It Simple and Smart. Et avec le recul, j'ai pas fait exprès, mais appeler ça casquette verte, qui est une casquette verte, qu'on le retrouve sur les courses, j'ai gardé ça simple, intelligible, facile, reconnaissable au premier coup d'œil, et c'est un petit côté sympa et sexy, quoi. Donc, avec le recul, je me suis dit que sans vouloir le marketer, au final, c'était parfaitement marketé pour faire ce que ça a créé et la dimension de communauté que ça peut avoir maintenant, ou du moins de phare, c'est pas le mot, mais de pôle d'influence. Mmh. Sur l'histoire, ça a commencé comment? Alors, nous retournons dans les années 2009 à 2014. Je suis étudiant en école de commerce. 2009, je suis en première année. Je suis timide comme tout, et je découvre un monde, le monde de l'école de commerce. Et dans ce monde-là, je découvre 2-3 personnes qui ont l'air vachement rigolotes. Et ces gens-là, ils font partie de ce qui s'appelle le BDE, le Bureau des étudiants. Et je sympathise avec eux, et je rentre dans le bureau en première année, et au bout de quelques mois, moi, le mec qui arrivait pas à parler devant 20 personnes et de faire aucune récitation quand j'étais en primaire, collège et lycée, je me dis, président du BDE, c'est bien, quoi. C'est cool de parler devant 300, 400, 500 personnes. Et donc, je me dis, c'est impossible pour moi. Donc, c'est marrant parce que ça fait un parallèle à la course. C'est impossible pour moi. Mais peut-être que, voilà. Essaye. Essaye, construis. Ne dis pas que c'est absolument quelque chose à faire, mais essaye d'aller vers là. Les années passent, quatrième année, je prépare à fond mon truc et effectivement je suis élu président du BDE, toute une année BDE se passe et à la fin de l'année BDE il y a un truc que t'organises, c'est le week-end d'intégration et la semaine, le séminaire d'intégration globale des premières années, quoi. Et pendant ce week-end d'intégration, putain, je te fais l'histoire vraiment depuis le départ.
Vas-y.
Pendant ce week-end d'intégration, les étudiants, en fait, on les met dans des bus et on les classe par couleur de manière à ce qu'ils se fassent la guerre, les noirs contre les bleus, les rouges, les jaunes, les verts, etc. Et on leur fout des casquettes, des t-shirts. Et il se trouve que quand t'es président du BDE, tu fais les trucs un peu à l'arrache. Tu commandes à la place de 50 casquettes, t'en commandes 70. Et donc, je me suis retrouvé moi après ce week-end d'inté avec des stocks de casquettes dans ma cave. Passe tout ça, passe la cinquième année, je commence à bosser, je me mets à courir et je me dis en allant courir, les mecs ils courent avec une casquette, donc même phénomène que l'étirement, ils courent avec une casquette, tu devrais faire pareil. Et donc je prends une casquette qui traîne dans la cave, je pars courir avec. Et je commence à faire des petits selfies, etc. à la fin des courses, à poster sur mon compte Instagram où j'avais, je sais pas, mais 100 potes qui me suivaient. Et j'ai une copine, elle s'est pas rendue compte de l'impact qu'elle a pu avoir, mais qui me disait, j'en ai marre de voir ta gueule transpirant, je faisais des selfies atroces, un peu trois carreaux, comme beaucoup trop de monde le font encore avant de se faire engueuler. Et le lendemain, enfin la troisième ou quatrième fois, elle me dit j'en peux plus. Ce lendemain, la troisième ou quatrième fois, je me dis je vais prendre en photo un autre truc. Je trouvais ça pas terrible de prendre en photo les monuments ou les paysages, tout le monde s'en fout. Enfin surtout quand c'est le bord du périph. Et donc je commence à poser ma casquette et à la prendre en photo. Et en je sais plus, en lui disant comme ça tu peux pas en vouloir une casquette, quoi. et donc ça a démarré comme ça et puis ça a commencé à devenir mon gris-gris, cette casquette, et je l'ai portée tout le temps. Je pouvais plus aller courir sans la porter, ça m'est arrivé, j'ai des souvenirs où je pars dans le bois de Vincennes, je fais 200 mètres et je me rends compte que j'ai pas ma casquette, je rentre, je vais mettre la casquette et je retourne courir. Et ça a commencé à grossir quand j'ai lancé un blog. En fait, j'ai lancé un blog qui s'appelait Casquette Verte, très étonnant. Parce que je souhaitais pouvoir partager ce que je faisais, mais pas aux gens sur internet, je m'en foutais. C'était avec mes parents et surtout avec mes grands-parents qui étaient, donc moi j'habite Paris et eux ils étaient à Toulouse, avec mes grands-parents pour qu'ils se rendent compte de ce que je faisais. Parce que j'avais beau leur expliquer marathon tout ça, eux à part me dire t'as pas mal au genou, comprenaient pas, quoi. Et donc j'ai commencé à raconter énormément, à faire mes récits de course très très longs où j'essayais de rentrer dans les sensations, dans ce que je vivais, dans les souvenirs. Et là, malheureusement ou heureusement, ça a pas intéressé que mes grands-parents, ça a intéressé pas mal le monde et c'est créé tout un truc autour de ça. Et c'est devenu plus gros que moi. En fait, les gens connaissent plus Casquette Verte que Alexandre Bouchex, et ça me déplaît pas parce que ça me permet d'avoir un certain pseudonymat. Ce truc que je te disais quand on s'est eu au téléphone il y a quelques jours, moi j'ai l'impression d'être un imposteur dans ce milieu de l'ultra trail, et justement avoir ce pseudo Casquette Verte qui fait des résultats, ça me permet à moi, Alexandre Bouchex, de pas avoir à justifier de qu'est-ce que je fais dans ce milieu-là. Donc ça a évolué comme ça et maintenant, sur Insta on est à 17 000 personnes qui suivent un mec qui poste une photo de casquette par terre tous les jours. Genre même moi je me suivrais pas, je trouve que
c'est à côté qui est cool, tu vois. C'est ce qui est à côté, c'est que tu partages tes temps, tu partages tes sorties, tu fais des stories, enfin tu fais plein d'autres trucs, tu vois.
Mais moi ça m'amuse de partager, mais et je veux pas dire que je joue avec ça, mais je fais attention sans faire attention à ce que je dis ou à ce que je mets, J'essaye pas particulièrement de créer des réactions parce que je trouve ça pas intéressant quand t'es dans le délire de te dire tu vas publier un message parce que tu attends d'avoir un retour vis-à-vis du message que tu mets. Ça continue à m'amuser. Tu parlais tout à l'heure, il y a eu un moment où c'était pas terrible parce que j'étais tombé dans ce vice des réseaux sociaux où je publiais quelque chose, j'annonçais quelque chose parce que j'avais envie de faire du bruit et surtout après ça devenait une obligation et il fallait faire ce que j'annonçais.
Ouais.
Et donc j'étais tombé dans ce vice-là et je trouve que c'est un vice qui est assez dangereux sur les réseaux et que je vois chez beaucoup de gens qui sont pas forcément très suivis, on va plutôt dire. Et maintenant c'est devenu un plaisir et c'est devenu cool et j'ai du mal encore à accepter le fait que je puisse être une source d'inspiration pour des gens. Il y a des gens qui me disent ça et moi j'ai vraiment du mal à intégrer le fait que je puisse inspirer des gens ou motiver des gens, mais en fait on me l'a tellement répété que maintenant je me dis écoute, c'est peut-être vrai. Donc, même si j'essaie de pas m'auto-censurer, j'essaie pas non plus d'amener les gens dans le mur. Donc, je me dis, t'as malheureusement une responsabilité qui s'est créée de fait, et de cette responsabilité, tu dois amener les gens vers quelque chose de qui est pas dangereux pour eux en tout cas.
Ouais, ok. Bon bah cool, trop content. J'ai eu l'histoire que je voulais. Et ça me fait plaisir. Tu t'attendais, ouais, est-ce que ça. Enfin, t'avais une ambition, est-ce que ça grossisse, tu vois, ou est-ce que là ça prend un peu d'ampleur, tu vois, je pense qu'il y a des gens ils te suivent, tu vois, ils te découvrent un peu comme ça, tu vois, via l'algo qui te recommande ou via le fait que ouais tu crées un peu de la réaction quoi, mais
je sais qu'il y a beaucoup l'algo et il y a beaucoup après en fait le bouche à oreille. Typiquement moi, le nombre des potes à moi qui me disent putain c'est incroyable, j'étais en réunion avec des mecs ils parlaient course à pied et ils ont commencé à parler de toi devant moi. Et j'aurais dit, mais je le connais ce mec-là. Enfin ce mec-là, j'étais en école de commerce avec lui, j'enchaînais les soirs en boîte de nuit. Et je m'attendais pas à ça. J'y croyais pas, je le comprends. Parce que je pense que j'étais au bon moment, bien dans le moule, le Parisien qu'il fallait pour créer de la surprise. Et j'aime bien justement créer de la surprise. Je pense que voilà, c'est plein de facteurs qui font que ça a marché et je l'ai pas entretenu pour que ça marche. Donc ce qui est aussi marrant, c'est que je me suis donné une date de fin pour la course à pied. Je me suis toujours dit, là, dans 3-4 ans, tu vas arrêter. T'auras fait le tour. Et récemment, il s'est passé ce qui s'est passé avec les Daft Punk. C'est-à-dire qu'eux, ils ont décidé d'arrêter. Et moi, ça m'a beaucoup marqué parce que c'est un groupe que j'adore. Et la scénarisation qu'ils ont fait dans leur manière de sortir de ça, je commence à y penser maintenant. Ça m'arrive là plusieurs fois sur le dernier mois en allant courir, de me dire quand il va falloir sortir de casquette verte, comment tu vas faire pour sortir partir comme un prince avec panache. Donc je commence à penser à ça et je pense plus à comment ça va se finir que comment le développer.
Ok, je vois le truc. Mais je te souhaite de finir comme les Daft Punk, parce que pour le coup ils ont
mal barré. Ça sera pas harder, pas stronger, pas better.
Ouais, ok, cool. Mais hyper, hyper, hyper bonne histoire. Je vois l'heure. Demain, je me lève grave tôt. Donc, il va falloir qu'on. De toute façon, on se reverra, Alex, c'est sûr. Donc, je vais passer aux questions de la fin. Ça te dérange pas, même s'il y a eu plein d'autres sujets que j'aurais bien aimé aborder avec toi. On a beaucoup digressé, on a été bavards tous les deux, donc tant mieux. Tu connais le principe des questions de la fin?
Bah écoute, on va pas se mentir, j'ai imprimé la feuille avec les questions devant moi. Cette feuille, il y a plein de notes marquées dessus depuis tout à l'heure. Je n'ai rien lu, donc je vais continuer à rien lire.
Ça roule. La toute première, c'est de savoir, c'est quoi une bonne journée pour toi?
Une bonne journée, je vais dire que elle n'existe pas, parce que malheureusement, je pense qu'une journée, il faudrait qu'elle fasse 35 ou 38 heures pour qu'elle soit bonne pour moi, pour que je puisse caler tout ce que j'ai envie de rentrer dedans, que ça soit passer du temps avec ma copine, passer du temps avec ma famille, que ça soit faire un ultra le même jour, bien bouffer, boire des verres avec un pote, aller voir un match du PSG, et j'arrive pas à rentrer tout ça dans une même journée. Donc,
t'es toujours un peu frustré à la fin de la journée.
Ça me crée de la frustration. frustration, et ce qui est cool, parce que la frustration crée de l'envie pour les journées d'après. Donc, y a pas de bonne journée parce qu'au final, la plus bonne, c'est de faire que on réalise ce qu'on a envie dans celle d'après.
Meilleure réponse jamais entendue sur ce podcast, je vous le dis. Vous pouvez vous refaire les 115 épisodes avant. C'était la meilleure réponse. Trop cool. C'est quoi ton meilleur souvenir de course?
Meilleur souvenir de course.
C'est
je pourrais te dire les victoires, mais c'est trop simple. On va faire celui qui est le plus frais, le plus récent. Il dure pas longtemps. UTMB cette année. Arrivé à Notre-Dame-de-la-Gorge, je crois que c'est vers le kilomètre 40 ou 50, ce qui est un endroit incroyable où il y a un pourcentage, je pense à 10-15%, et il y a l'Alpe d'Huez à cet endroit en termes de supporters. Ça dure pas longtemps, ça doit durer 5-10 minutes, peut-être que ça dure 3, mais on a l'impression que ça dure 10 minutes tellement c'est intense. Et tu te fais gueuler dessus. Les mecs, ils t'encouragent et tu marchais juste avant, ou tu trottinais dans la montée, et les mecs, ils gueulent tellement que tu sors de toi-même, tu te donnes à 130% parce qu'ils sont là, et meilleur moment, parce que c'est le moment très très récent, mais il y en a tellement d'autres, c'est impossible à raconter.
Ok. Et le pire, tu te souviens?
Je suis dans une philosophie qui est que généralement, pour moi, les pires moments sont les meilleurs souvenirs. Pire moment, Ultra Trail de Cape Town en Afrique du Sud, kilomètre 44-45, mes jambes se tétanisent, t'as la photo, donc là les auditeurs pourront pas la voir, mais c'est là-haut. Et donc, je tombe par terre et j'ai une tétanisation totale de toutes mes jambes. C'est-à-dire que j'avais des crampes qui rentraient sur 4 ou 5 cm à l'intérieur de mes jambes. Donc on pouvait mettre la main et les doigts et rentrer à l'intérieur de mes jambes parce que les muscles rentraient vers l'intérieur. Donc là, j'étais pas un extraterrien, mais un extraterrestre. Et j'en suis là. L'organisation de course, le service médical me met hors course, me dit bon, c'est fini. Je me fais ramener au ravito. Et dans le ravito, moi, j'avais de l'avance et j'ai envie de leur dire, écoutez, c'est pas fini. Je vais peut-être réapprendre à marcher, à courir. Laissez-moi repartir. Je mets une heure ou une heure et demie à réapprendre à marcher progressivement. Et j'essaie de négocier avec eux. J'en suis pas à signer une décharge, mais presque, pour qu'ils m'autorisent à repartir. Et ils me demandent de rester en contact avec un numéro de téléphone particulier, de l'appeler en cas de besoin. Et il me reste encore 50 km à faire sur un ultra, donc vraie galère. Et je n'arrivais plus à courir, donc j'ai fini en marchant. Et c'est mon pire souvenir parce que c'est le moment où je me suis dit, au final t'es faible, tu n'es qu'un humain et tu te voyais plus beau que ça. Et c'est le meilleur parce que j'ai réussi à aller et à être finisher de la course. Donc pire souvenir, meilleur moment.
Ok, très cool, très très cool. Est-ce que t'as des idoles sportivement parlant, ou je crois que t'aimes beaucoup Zizou, mais...
Ouais, ce que j'allais dire, on va essayer de sortir du trail. Ouais, j'aime Zizou, joueur, entraîneur. En fait, vu qu'il est dans un mode où il essaye d'expliquer aux gens comment ils doivent pousser le ballon, je l'aime moins, mais même s'il a tout gagné, donc c'est difficile de l'aimer moins. Mais pourquoi
tu t'aimes pas son côté entraîneur, tu vois? Au contraire, moi j'ai encore plus aimé le mec parce que je trouvais que c'était, il avait un côté presque. C'est pas du tout le bon mot, hein, et ça peut paraître très méchant, mais il y avait un côté presque autistique dans son talent. Tu vois, il est très renfermé sur lui-même, il communique très peu, et le fait qu'il arrive dans l'exercice de l'entraîneur, je me suis dit waouh, en fait je me trompais complètement sur ce mec. Enfin, et n'importe quel challenge, il y arrive, quoi. Et il y arrive avec la meilleure équipe du monde, et c'est un peu, il arrive dans les meilleures conditions, tu vois. Faudrait voir ce qu'il fait avec le Stade Malherbe de Caen, par exemple. mais je l'ai encore plus aimé en tant qu'entraîneur, tu vois, justement parce que il cassait un peu cette image de renfermé ou de juste joueur, tu vois. Et là, de vrai leader, je trouve.
Je suis d'accord sur le côté, s'il avait le Stade Malherbe de Caen, je suis d'accord qu'il réussirait pas. Donc là-dessus, on est d'accord qu'au final, il est pas si bon. Non, ouais. En fait, je considère que c'est pas lui qui pousse le ballon maintenant. Que certes, il est entraînant parce qu'il a déjà tout réalisé et que moi, le jour où François Daen il me coach, bah peut-être que je serai meilleur parce que effectivement, le mec, il va me donner envie d'être meilleur en fait. Ouais. Et je pense que c'est ça qui l'a fait réussir. Moi, après peut-être que je me trompe et qu'il a des techniques très particulières et c'est un magicien de l'entraînement. Mais pour l'autre aspect, moi c'était sur l'aspect joueur où j'étais un fanatique de lui, pas parce que j'avais l'âge que j'avais, c'est-à-dire 7 ans au moment de la Coupe du Monde et que t'es obligé de tomber amoureux d'un mec qui met deux têtes en finale. Mais c'est parce qu'en fait je l'ai trouvé beau et il a fait dans le football ce que j'aime, ce que j'ai retrouvé chez Pastore par exemple, qui ça te paraît simple. Tout te paraît simple avec lui, c'est-à-dire qu'il va prendre le ballon, ça va te paraître fluide, il va faire des contrôles comme extraordinaire et ça te paraît au final totalement simple. Et aussi France-Brésil 2006, je pense que s'il arrive à passer tous les Brésiliens, c'est parce que il les surprend et il va là où il est pas attendu par les joueurs, c'est-à-dire qu'il est pas dans un réflexe de footballeur traditionnel de contrôle passe et bah c'est ce que j'ai appris à l'école et j'applique parce que c'est la méthode qui marche dans 97,5% des cas. Il est pas là-dedans, lui justement, il fait pas un contrôle passe, il fait un contrôle, il part de l'autre côté et c'est ce que j'ai trouvé génial chez lui. En plus d'être beau, c'est que il détonnait. Et quand tu parles de c'est un sujet sensible dès qu'on est dans les médias de parler d'autisme. Moi, c'est un truc que j'ai pas mal écouté de podcasts là-dessus sur les autistes et sur la façon dont la famille gérait ça et dont eux-mêmes vivaient l'autisme. Et étonnamment, quand j'écoutais des podcasts comme ça, il y avait certaines choses qui étaient décrites chez les autistes que je retrouvais en moi-même et qui étaient plutôt des choses qui, pour moi, étaient valorisables. C'est-à-dire que je trouvais que c'était une différence qui m'apportait à moi du plus et qui sur quelqu'un auquel on dit qu'il est un autiste va peut-être le mettre en marge de la société, alors que moi personnellement je trouvais que ça ouvrait d'autres portes et d'autres fenêtres. Donc effectivement je trouvais ça aussi chez Zidane qu'il avait ce petit côté différent et que moi c'est peut-être ce petit côté différent aussi qui m'a plu chez lui et qui m'a montré que un mec qui était un peu comme moi comme ça. Putain, je suis en train de me comparer à Zizou quoi. Bon, je suis pas chaud, c'est bon.
Il faut se faire plaisir. On est à 1h30 de podcast, c'est bon, il faut.
C'est quoi ton record en durée? Est-ce qu'on peut le battre? Non, parce que tu dois te lever tôt demain matin.
Ouais, je dois me lever super tôt et puis ça nous fera au moins une raison de faire un deuxième épisode. Tu vois, c'est une des aspirations du moment, c'était de réinviter effectivement les invités que j'avais eus et au moins de pouvoir faire un follow-up, de pouvoir comparer un peu leurs états d'esprit. Donc, tu vois, ça nous fera une bonne raison pour faire un deuxième truc.
Mais, super.
Ouais, en plus demain, séminaire d'équipe, je dois faire le manager inspirant et tout, donc il faut que je sois au taquet. Mais
t'inquiète pas, j'ai une réunion à 8h45 aussi à Neuilly, donc pareil, je devrais être au taquet, mais
6h30 porte maillot moi. Donc
ok, d'accord.
Après, je suis pas un gros dormeur, donc je m'en remettrai.
Non, mais
pas.
Si tu pars de Saint-Mandé en courant, porte maillot 12 km, si tu cours bien, mais tranquille, ok, 52 minutes.
Exactement. Sauf que j'ai 10 kilos sur le dos. À prendre. Tu te vois comment dans 10 ans?
Dans 10 ans, je pense que j'aurais arrêté le trail et l'ultra. Enfin, en tout cas, je m'appellerais plus Casquette Verte. Je serais repassé sous mon vrai nom. Et puis, j'espère être tombé dans l'anonymat et pouvoir, pour ce qui est du trail. Mais je pense qu'en fait, j'aurais arrêté de m'impliquer autant parce que au jour d'aujourd'hui, oh là là, je dis un truc qui est détestable. Je déteste les gens qui disent ça. Mais dans mon quotidien. Actuellement, je m'implique, c'est-à-dire que je cours 2 ou 3 heures par jour, et donc moi, tous les 12 jours, j'ai couru pendant une journée entière, et ça me bouffe trop de temps, ça me bouffe trop de vie. J'ai sacrifié beaucoup de temps avec mes amis, ma copine, on a passé un contrat donc ensemble là-dessus, donc j'essaie de trouver un équilibre entre l'entraînement et elle, mais ça me bouffe trop, et donc je sais que ça sera plus possible au bout d'un certain moment. J'ai envie d'avoir des enfants, de construire une famille, donc je pense que dans 10 ans, ou du moins j'espère que dans 10 ans, je mettrai autant d'implication dans l'éducation de mes enfants et dans leur faire découvrir des choses que ce que je mets aujourd'hui dans le trail, quoi.
Ok, moi tu pourras m'appeler à ce moment-là.
J'ai cru comprendre qu'il y a 2-3 conseils.
Des petits retours d'expérience, ça marche. Il y a des trucs qui te font peur?
Des trucs qui me font peur, ouais, plein. Je suis un ultra trailer et j'ai peur de temps en temps en montagne. Je prends un exemple tout bête. Avec un pote, on s'est fait Chamonix jusqu'à la pointe Percée, une traversée. Voilà, il y avait 75 bornes et il fallait qu'on termine par la pointe Percée. Je crois que c'était dans les Aravis. Je connais super mal la montagne. Et il m'amène, on arrive au refuge, il me fait grimper un peu au-dessus, on passe sur des lapias, des trucs tout en pierre. Et il était fatigué de 75 bornes, moi j'étais encore en pleine forme. Et on commence à grimper 3-4 cailloux, à prendre un peu de hauteur, ça devient un peu plus engagé. Et on a fait 20 mètres d'engagé et je lui dis j'arrête, c'est trop dangereux pour moi. J'ai pas cette... Je le vois en descente parce que je suis nul par rapport aux montagnards. Eux, ils ont pas d'appréhension. Moi, j'ai l'appréhension de la montagne, de tomber. Et je vais pas dire que j'ai le vertige parce que c'est faux, mais la haute montagne où le danger me fait peur. Quand j'étais plus jeune, que j'ai commencé l'ultra et que je commençais à me dire un peu ce modèle de toujours plus, je me suis dit un jour tu vas faire l'Everest. Là, je me suis remis en question il y a un an ou deux ans et je me suis dit non, c'est pas pour toi. Enfin, tu fais pas de l'alpi, tu fais pas ces choses-là, donc des choses qui pouvaient me paraître naturelles dans une progression d'ultra trailer de partir vers l'alpinisme, ça me fait peur. La montagne est dangereuse et je préfère avoir un 100 miles, un UTMB avec des ravitaux tous les 15 kilomètres, être sûr d'être bien en sécurité, justement payer et financer en payant mon dossard pour avoir cette sécurité, que de me lancer dans des trucs extrêmes. Je comprends et je conçois totalement qu'il y a des gens qui arrivent à le faire. Moi, ça, je sais pas faire. Ça me fait peur.
Ok. Ok, très cool. Est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu recommandes?
Des livres. Si je commence comme ça, ça va faire marrer ma meuf.
J'ai vu sur ta bibliothèque.
Donc là, tu vois, là, il y a plein de livres. Eh ben, moi, c'est simple. En fait, j'avais une règle. Avant, c'était, je ne lis pas.
Ok.
Je ne lis pas. Avant, ma règle, c'était, tu lis un livre par an. Et là, j'ai 5 ans de retard. Donc, le dernier livre que j'ai lu et que j'aime bien, c'était le mec qui bosse dans ma boîte, qui m'a mis à la course à pied, qui m'a amené dans ce milieu-là, qui s'appelle Ronald. Il m'avait filé un livre la toute première année et je pense que en fait c'était bien justement quand j'ai découvert la course à pied de lire ce bouquin qui était autoportrait d'un coureur autoportrait de l'auteur d'un coureur de fond de Haruki Murakami, un japonais qui en gros s'éclate à faire des marathons un peu partout de la terre, qui est un super auteur et qui court un peu à côté et qui fait des marathons un peu partout, et qui en fait, il t'explique son marathon de Boston, son marathon au Japon, et je me rappelle d'un chapitre où il explique que lui, il s'est lancé un défi, et quand j'ai lu ça à l'époque, je trouvais ça incroyable, et il me paraissait être un extraterrien, justement, où il courait 10 kilomètres par jour pendant 30 jours, et il te racontait ça comme, ça me paraissait être une épreuve herculienne. Et maintenant, avec le recul, et le moi maintenant qui court 25 bornes par jour, je suis content d'avoir lu ce bouquin à l'époque et d'avoir rêvé à l'époque et de me dire que ce mec était extraordinaire, et d'avoir ce décalage par rapport à maintenant. Donc, ce bouquin, il faut le lire. Quand on commence, après, ça n'a plus aucun intérêt.
Ok, top. Top, top. Si tu pouvais te donner un conseil à toi-même la première fois que tu mets des baskets et à ton premier... Allez, ton premier semi, t'es sur la ligne de départ, si tu pouvais te dire un truc à ce moment-là, tu te dirais quoi?
T'aurais pas dû lire l'article avec le top 5 des choses qu'il faut absolument savoir pour faire un semi. Donc si tu l'avais pas lu, t'aurais peut-être pas fait 1h50. Mais surtout n'écoute pas ce conseil. N'écoute pas le mec qui a 10 ans de plus que toi et qui te parle. Fais comme tu le sens et ça va bien se passer. T'inquiète pas. D'ici 2 ans, t'es sur la diagonale.
Ça marche. Il y a une question que t'aurais aimé que je te pose aujourd'hui.
Waouh, celle-là je l'avais pas préparée.
elle est impréparable celle-là, tu vois.
Alors une question que j'aurais aimé qu'on me pose.
Je peux te dire la question que j'ai oublié de te poser aussi, mais ça serait tricher.
Je vais la trouver, ça va me prendre 2-3 secondes. Est-ce que... Je l'ai pas encore.
Non, mais c'est une question qui est, on me l'a suggéré, vachement mais dur. Cette question-là est vachement bâtarde. Et en fait, à chaque fois que je la pose, ça met une colle. Donc c'était la dernière fois que j'essaye cette question-là. Je suis désolé pour l'auditeur qui, s'il est encore là, qui nous écoute, qui m'a recommandé cette question, mais à chaque fois, elle prend pas. Autant je la trouvais cool. Au début, quand je l'ai vue, j'ai fait, ah, super bonne idée. Mais elle marche pas du tout. Donc,
Et si tout était à refaire?
De tout refaire le podcast?
Bon, ah, on peut redémarrer. Écoute, c'est reparti. Vas-y. Non, et si tout était à refaire? Je pense que c'est la question que j'aimerais qu'on me pose et j'aimerais juste y répondre. Oui, on refait tout.
Allez, et si tout était à refaire? Mais tu sais quoi, je la note. En fait, je transforme la question.
Je commence à déformer le propre podcast que j'écoute. Ça va me faire bizarre quand après je vais l'écouter en courant et je vais me dire, mais cette question, c'est moi qui l'ai.
Mais promis, la prochaine fois, je la pose. La toute dernière question, c'est, comme tu le sais, c'est un passage de micro. Qui est-ce que t'aimerais bien écouter sur une de tes prochaines sorties entre Neuilly et Saint-Mandé pour t'accompagner sur un petit un retour à la maison.
Alors, vu qu'on a parlé juste avant et
balance-moi plein de noms là, je suis
non, non non non, mais vu qu'on a parlé juste avant, en fait jusqu'à présent, j'avais l'impression que t'étais très très orienté sport athlète et justement je me disais mais qu'est-ce que je viens foutre dans ce podcast? Moi je suis pas athlète, je suis pas élite, ça va pas aller. Et on a parlé juste avant et tu m'as dit que bah tu avais envie un peu d'élargir tes horizons. Donc si on prend un mec qui n'est pas un athlète mais qui connaît vachement bien l'ultra et qui je pense a des histoires incroyables à raconter sur l'ultra et sa propre histoire est incroyable, c'est Ludovic Collet, la voix du trail. Je sais pas si tu le connais. C'est grosso modo un mec qui est présent sur toutes les plus grosses courses au monde, mais lui il court pas. Lui il est au départ, à l'arrivée, il tient le micro et c'est l'animateur des plus grandes courses dont l'UTMB. Et en plus de participer à ces histoires, c'est un mec bienveillant, énormément d'amour à apporter aux gens et il a la plus belle voix à écouter en podcast comme ça.
Ok.
Donc Ludovic Collet est totalement en dehors du sport, mais vu que tu as envie d'en sortir, il y a un mec qui s'appelle Bernard Barato qui pour moi est devenu une source d'inspiration, rien à voir avec le sport. Bernard Barato, c'était le papa d'un enfant qui avait la myopathie. Son enfant est mort. Okay. Bernard Barato, c'est donc le papa d'un enfant mort de la myopathie et qui avait cet enfant qui était décédé et qui s'est inscrit à une association qui était l'AMF, c'est l'association des myopathes français, enfin de l'adomyopathe français.
Okay.
Qui est une association qui à l'époque vendait en gros des cartes postales et des chocolats et qui faisait 5000 francs de revenus et qui aidait assez peu au final les associations et qui a en gros devenu président de cet asso et s'est dit écoutez, la charité chrétienne c'est bien mais c'est pas une stratégie, nous on va monter un vrai truc pour vraiment faire avancer les choses. Et d'une simple envie, une motivation, il a modifié cette association en le Téléthon. C'est le mec qui a eu l'idée, qui a créé le Téléthon et qui donc s'est sorti les doigts du pour faire que d'une association qui vendait des cartes postales et faisait 3 francs 6 sous et qui aidait pas la science, a fait le Téléthon qui récoltait des millions d'euros chaque année et qui a réellement fait avancer les choses et qui d'ailleurs a fait avancer la recherche sur les vaccins ARN messager qui peut-être nous ont permis de sortir de cette merde de Covid. Okay. Mais donc mec passionnant, peut-être que tu pourrais l'accrocher un peu sur le Téléthon parce que il y a un grand rapport entre le Téléthon et le sport maintenant, mais mec fascinant, source d'inspiration dans l'idée de se dire et on peut se retrouver ça en sport. Au final, il suffit juste d'avoir envie et de se sortir pour pouvoir réaliser des choses qui paraissaient totalement impossibles au départ.
Eh ben écoute, super super reco. Je retiens et tout Bernard Barato. Je te demanderai si jamais je te redemanderai l'orthographe et tout, mais super recommandation.
Parfait.
Et ça me va très bien. Et effectivement, ouais, sortir un peu du sport et rentrer un peu sur de l'engagement, ça me va trop bien. Écoute, J'ai passé un bête de moment. 1h37, je pense qu'on est pas loin du record.
Ça a duré encore un petit peu.
Je sais plus quel est le record et tout, mais écoute, je me suis régalé, j'ai passé un bon moment. Comme je te disais, je suis venu à la découverte de, tu vois, de ton univers, et je savais qu'on allait passer qu'on allait faire plein de nouveautés, tu vois. Il y a eu le verre de vin blanc, il y a eu le tour aux toilettes, il y a eu plein de petits trucs. Donc merci pour ton accueil, merci pour ta transparence. J'ai passé un bête de moment, et si vous êtes encore là, allez dire à Alexandre que vous avez kiffé et que vous avez passé un bon moment vous aussi. Je suis sûr que ça lui fera super plaisir.
Effectivement, et encore une fois, je te remercie d'être venu. J'ai halluciné quand tu m'as envoyé le petit message. Bon, on l'enregistre. Moi, je pensais être juste quelqu'un comme ça. Donc, merci à toi. Ça me fera très plaisir de m'écouter moi-même en courant. Et j'espère que cet épisode aura plu à tout le monde. J'espère pour toi que tu vas encore évoluer et faire évoluer ton podcast et peut-être l'amener vers d'autres choses. C'est un mode d'écoute, c'est un mode d'information qui est assez nouveau et que moi personnellement je trouve formidable. Si je trouve ça formidable, il y a plein de gens aussi qui vont trouver ça formidable. Donc je te souhaite toute la réussite que tu dois avoir, parce que c'est formidable ce que tu crées.
Écoute, merci beaucoup. Je vais tâcher d'être à la hauteur. Voilà. Salut Alex.
Ciao ciao.
Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.